Jazz.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase, et les midi 1 exactement. Énormément d'actualité pour vous en cette belle émission. Ça brasse pas à peu près, autant Québec, mais surtout sur la scène judiciaire. On va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Après vous avoir rappelé que le 418-971-1021 est le numéro pour nous texter. Merci beaucoup, on adore vous lire, on adore interagir avec vous. Par la suite, le 418-780-1021, c'est le numéro pour nous appeler. BLVD.fm, c'est notre web radio. Vous allez retrouver les meilleurs moments également après l'émission sur notre site web. Si jamais vous avez manqué un bout d'émission que vous voulez réentendre, ou même un bout d'émission que vous voulez réentendre dans les autres émissions. Notamment le pit stop aujourd'hui avec Denis Gravel ce matin. On s'est astiné sur les gens qui votent, moi, Marceau et Denis. Moi et Denis, on est en désaccord avec Yannick Marceau. Qui disait, ben, ça prendrait un test de QI pour aller voter, puis il faudrait que tout le monde connaisse tous les plans de partis politiques. Non, non, non. T'as le droit d'aller voter si t'es juste insécure à cause de Donald Trump. C'était le point de Denis Gravel et Jeff Fortin. App Store, Google Play Store, c'est gratuit. L'application BLVD 102.1, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Ça vous permet d'aller voir nos meilleurs moments, notamment le caucus avec Antonine Iaccarini de midi à 12h30, du lundi au jeudi. Vous rappelez aussi qu'avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » et paf, on apparaît dans vos oreilles. Pascal Sylvain, Antonine Iaccarini, ça va bien?
Allô? Très bien.
Cool! Pascal, on commence avec la grosse nouvelle, c'est-à-dire le jugement concernant la poursuite au civil contre Gilbert Rozon.
880 000 $, voilà ce que Gilbert Rozon a été condamné à payer dans le procès civil qui l'opposait à 9 femmes. C'est moins que ce qu'on réclamait initialement. C'était 14 millions de $ que les 9 femmes voulaient, en fait, de l'ex-magnat de l'humour. Elles le poursuivaient pour cette somme-là. Il faut savoir que la juge a tranché. Donc, la juge Chantal Tremblay a cru beaucoup plus la version de 8 des 9 femmes que celle de Gilbert Rozon. C'est ce qui met fin à une saga judiciaire qui a duré presque 10 ans. Mm-hmm. Donc, on a cru davantage Annick Charrette, Guylaine Courcelle, Lynn Charlebois, Anne-Marie Charrette, Sophie Moreau, Martine Roy, Patricia Tulane et Dany Frenette. C'était ces femmes qui poursuivaient Gilbert Rozon. La poursuite de Marilyn Sicari a été rejetée, par exemple. On parle de beaucoup de choses là-dedans, entre autres que M. Rozon posait des gestes conséquemment. Il utilise différents prétextes pour se retrouver seul avec des demanderesses avant de les agresser. Il fait également fi de refus clairement verbalisé par ces femmes-là. On dit que c'est une grave erreur dans la vie de Gilbert Rozon, selon ses propos, là, il dit qu'il va montrer qu'il n'est pas coupable, qu'un chèque aurait tout réglé. Dernière apparition en cours en septembre dernier, c'était ses propos. Par contre, aujourd'hui, il n'a émis aucun commentaire.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. Pascal vient de nous résumer le jugement de Gilbert Rozon. Anto, c'est une bonne chose pour les victimes d'agressions sexuelles que ce jugement-là tombe, et tombe quand même positivement.
Ouais, je sais pas, vous, votre première réaction, mais je me suis un peu dit en voyant le jugement, ouf.
T'sais, ah, vraiment, j'ai eu le même souper, j'ai fait ouf. Les femmes victimes d'abus sexuels, d'agressions sexuelles vont continuer à dénoncer. Je trouvais qu'avec l'histoire des joueurs de hockey de Team Canada, et 5 oui. C'est une femme dans une chambre d'hôtel, je trouvais que, puis de la façon que la juge avait agi avec la victime aussi, oui. Je trouvais que les victimes en avaient pris un petit peu trop pour leur rhume, pour prendre cette expression-là.
Ouais, puis tu sais, les déboires judiciaires de Gilbert Rozon, c'est devenu un symbole là, au Québec. Là. C'est notre mascotte du Me Too, là.
Oui,
Québec,
vraiment. Là.
C'est comme notre Harvey Weinstein à nous, ça, Gilbert Rozon. Donc,
très bon
c'était
point.
Devenu vraiment très, très symbolique. Ces procès-là, parce qu'il y a eu aussi du côté criminel, maintenant on est du côté civil, puis comme vous savez, c'est différent. Hein. Pour prouver son point au civil, c'est pas au-dessus de tout doute raisonnable, donc c'est différent. Ça peut envoyer un message aussi aux victimes que c'est une des voies par lesquelles on peut passer pour obtenir justice, qui est peut-être
plus efficace pour les cas d'agression sexuelle qui sont tellement difficiles pour les victimes. Et ces procès-là aussi, ce que ça a amené, c'est une discussion de société autour, évidemment, du consentement. C'est dans le contexte de MeToo, bien sûr, mais aussi sur tous les obstacles que les victimes ont sur leur chemin pour dénoncer, pour aller dans un processus judiciaire. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a une décision qui n'est pas du côté des victimes, puis évidemment, on s'entend, des fois, c'est possible aussi que les gens ne soient pas coupables. Il faut le prendre en considération.
Oui, exactement.
Le problème avec M. Rozon, c'est que, disons que ce serait un très, très grand complot qu'il n'y ait rien du tout. Quoique ses amis étaient venus pendant le procès, vous vous souvenez, pour dire que c'était une grande victime, dans le fond, M. Rozon. De MeToo.
Sa sœur aussi, de mémoire. Ouais.
Sa sœur. Pierre-Marc Johnson, qui était venu dire que c'était bien épouvantable. Ancien premier ministre. Il y avait Guy Fournier aussi, figure connue du monde culturel, qui était venu dire. C'est parce qu'on ne peut plus rien dire. Hein? Moi,
je trouve que... Je peux faire mes jokes de mon oncle, c'est-tu plate,
ça? Je peux plus faire des commentaires sur les seins de la maquilleuse pendant qu'elle me maquille.
Ben, c'est-tu plate, ça, c'était le fun. Il dirait, t'as une belle craque.
Ça a amené une discussion aussi sur ces hommes en position de pouvoir qui... comment doivent-ils se comporter?
C'est justement là que je voulais aller. Je suis content que tu l'abordes. En passant, 12h30, Alexandra Fadel, avocate senior chez Juripop, spécialisée dans les recours civils en matière de violence sexuelle, va être avec nous justement pour nous parler de ce jugement-là. Moi, il y a là que je trouve qu'il y a une avancée énorme au Québec. C'est avec les hommes en autorité sur des femmes. Le fait qu'on l'a entendu, ça s'est déjà passé, que les femmes ont été obligées justement de faire des gestes à caractère sexuel pour avancer dans des compagnies ou avoir une carrière dans le domaine artistique. Là, j'ai l'impression qu'on vient de mettre la hache dans ce fameux ce fameux régime-là. Exactement.
Ben oui. Puis, tu sais, faut le dire aussi, là, c'est pas le seul procès, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le domaine du consentement, de ce qui est acceptable ou non. On a beaucoup parlé d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel dans les dernières années. Mais on sent aussi un espèce de retour du pendule. MeToo est allé trop loin. Ça, on l'entend beaucoup.
Ouais.
Et je trouve que le procès de M. Rozon, là, avec ces bonhommes qui sont venus dire qu'on ne pouvait plus rien dire, puis que c'était bien épouvantable, MeToo, puis que les hommes en étaient victimes maintenant, là, je trouve que ça c'est venu dire « Non, regarde, désolé, là, mais vous n'êtes pas des victimes. » Donc ça, il y a quelque chose de très positif là-dedans.
Non, mais en effet, puis je suis très d'accord avec toi, parce que, vois-tu, moi, je suis un homme, puis il n'y aura jamais un mouvement MeToo qui va m'emporter, parce que je n'ai jamais eu ce type de comportement-là.
Tu ne te sens pas, tu te sens pas limité dans tes actions par le mouvement MeToo?
Pas du tout.
Parce qu'il n'y a pas d'actions que tu posais.
Ben, exactement.
Qui sont répréhensibles.
Donc, ceux qui se sentent limités, c'est parce que c'est ceux qui ont de quoi dans le placard, là, qui disent « Ouais, il ne faudrait pas que ça sorte. Hein, la fois que j'ai touché les parties génitales d'une femme sans son consentement. »
Ben, c'est ça.
Mais là, tu es « Ah, c'est vrai. Hey, j'étais chaud, j'étais dans un party. » Ben, non.
Ou tu sais, des choses pas criminelles. Moi, j'aime ça faire des compliments. Moi, j'aime faire des compliments aux femmes, au bureau. OK, peut-être que effectivement, tu te retrouveras pas en prison pour ça, mais je pense que c'est correct qu'on ait une discussion de société autour du fait que je pense qu'on peut très bien passer nos journées, Roger, sans que tu fasses de commentaires sur le physique des dames avec qui tu travailles.
Merci. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, 100%.
Je reviens un peu plus sur le procès comme tel, puis sur le fait que ces femmes-là qui dénoncent doivent revivre cet événement-là quand elles font leur processus de dénonciation avec les policiers. Après
c'est ce
ça,
qui est atroce.
Et ça, c'est extrêmement difficile. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a un tribunal spécialisé qui a été mis en place par le gouvernement Legault, par la ministre Sonia Lebel, et ensuite là, qui a été continué par Simon-Jolin Barrette, les deux ministres de la Justice du gouvernement Legault. Un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... des processus qui sont extrêmement difficiles pour les victimes. Et donc, d'avoir du personnel judiciaire qui est formé, qui sait, qui a un petit peu plus de sensibilité, de connaissance sur comment ça fonctionne, le processus d'une victime. Parce que, tu sais, des fois, on va leur reprocher, mais pourquoi vous n'avez rien dit à l'époque? Pourquoi vous avez dit ça, mais finalement, c'était pas vrai? Pourquoi? Bien, quand tu as une connaissance du processus d'une personne à qui ça arrive... Et les étapes par lesquelles cette personne-là doit passer, bien, c'est sûr que ta vision change. Dans les dernières années, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont pris la parole pour en parler. Je pense évidemment à Catherine Fournier. Je pense à l'organisme oui. Jury Pop avec qui vous allez parler tantôt. Eux, ils ont une connaissance très fine aussi de comment les victimes passent à travers ces étapes-là. En tout cas, je vois ça comme vraiment un avancement et j'espère que le pendule ne va pas revenir trop fort là, à la suite de MeToo.
Juste le fait de devoir rester calme dans une cour qui demande à avoir le moins d'émotions possible face à une situation qui est hautement émotionnelle, oui. qui peut être injuste. Moi, je lève mon chapeau pour les victimes hein, qui continuent leur chemin là-dedans. Je pense que quand tu te fais refuser, par exemple, à un moment ou à un autre, où tu ne te fais pas entendre, tu ne te fais pas croire quand c'est réel, ça doit tellement aller te chambouler, mais rester forte, la tête haute, puis continuer de plaider ta cause, ah, si ouais. on veut, avec pas trop d'émotions.
Puis les maudits contre-interrogatoires
oui.
de marde.
Mais oui,
puis
la couverture
on médiatique essaye aussi. De faire en sorte que la victime se mette ça sur le dos,
ouais.
ça me pue au nez.
Puis tu sais, on s'entend qu'il y a des cas où c'est vrai que c'est l'homme qui
bien
est victime,
sûr.
Oui.
Oui.
puis le contre-interrogatoire se vaut. Mais il y a des contre-interrogatoires qui sont à la limite,
ouais.
à la très grande limite de ce qui devrait être acceptable en cours, mm. Parfois face à n'importe quelle victime.
Et surtout pour des agressions multiples, comme là, c'est venu au fait que les joueurs de hockey n'ont pas été connus coupables. Mais je vais donner quand même ça comme exemple. Sont cinq, sont représentés par cinq avocats. Fait que la présumée victime, dans ce cas-là, parce que je peux pas l'appeler victime parce qu'il n'y a pas eu de culpabilité reconnue, c'est cinq avocats ferrés qui la contre-interrogent mm-hmm. heure après heure, jour après jour, comment vous voulez que la personne craque pas?
Bien, moi, je l'ai vécu au procès du viol collectif à Trois-Rivières, Victoriaville, même, en fait, il y a eu comme deux
dans un
moments,
rave,
là, oui. Puis je me rappelle, je commençais là, à suivre des causes au palais de justice, puis celle-là m'a saisi là, sur les contre-interrogatoires. Parfois, tu dis, hey, pour faire passer ton point, t'as pas besoin de celui-là. Même en termes de droit, là, t'as pas besoin d'aller
aussi loin.
C'est
pas loin d'une autre agression, honnêtement.
Ben oui.
C'est vraiment clairement. Dur, puis ça fait en sorte, puis il faut se dire la vérité, là. Il y a beaucoup de victimes qui ne dénoncent pas parce qu'elles pèsent les pour et les contre et se disent « Moi, je veux pas être une victime toute ma vie. Mm-hmm. » Hey, c'est long en plus, là. T'sais, c'est dur, mais en plus, c'est des années de ta vie.
Puis ça coûte cher.
Puis ça coûte cher. Puis ça te coûte cher de ton temps et de ton énergie et de tes émotions. Donc,
ouais.
On leur lève notre chapeau, mais je respecte aussi les femmes qui prennent une autre décision.
Ben vraiment. Ouais, puis t'es pour ceux qui disent « Ouais, voyons, il y avait juste à le dire avant. » Puis là, je vais prendre son nom en exemple là, parce qu'elle a témoigné de toute façon à visage découvert. Julie Schneider.
Ouais.
Bon, elle a raconté que c'est arrivé avec 22-23 ans à Paris avec Gilbert Rozon. Elle commence sa carrière. Pensez-vous vraiment que Julie Schneider, 23 ans, a les reins assez solides pour affronter le système qui était là en place à ce moment-là?
Ben non,
impossible.
Exactement. Puis tu sais, en plus, quand ça arrive dans un milieu où tu as quelqu'un qui a énormément de pouvoir et cette personne-là, un peu comme dans le milieu du sport, a droit de vie ou de mort sur ta carrière... T'es pas à armes égales.
Bien, en plein ça.
Donc, à un moment donné, il y a un mouvement qui se forme, il y a des voix qui commencent à s'élever, puis là, tout le monde se met à prendre la parole en même temps. Pourquoi? Pas parce que c'est un grand complot. C'est parce qu'il faut être plusieurs, il faut se donner de la force.
Ben
c'est
oui.
Ça, elles n'étaient pas à force égale.
Ben non, on les voyait tout à l'heure avant leur conférence de presse, les victimes se serrer dans leurs bras, pleurer. T'es, pour elles, c'est la fin d'un long processus de quoi? 10, 12, 15 ans
oui.
où elles ont souffert, justement. En raison de cet homme-là. Donc, c'est pas du tout l'inverse qui est arrivé, mais plutôt ceci. Très, 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 très satisfait que ce jugement-là soit tombé. Très content de voir qu'on a cru presque la totalité des présumées victimes, maintenant que je peux appeler victimes. Puis on va souhaiter qu'à la gang, on a changé nos comportements depuis l'arrivée du MeToo.
J'ose croire que oui.
Moi aussi, honnêtement, moi aussi. En tout cas, bref, moi, dans mon entourage, ben, c'est clair qu'on s'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Là, mais
oui.
Moi, dans mon entourage, là, pas de danger que ça arrive, là, honnêtement. Là.
Bravo.
Donc, très, 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 très heureux, satisfait. Puis c'est ce qu'on a là, présentement par texto. Si vous voulez commenter, 418-971-1021. On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment radio de midi à midi 30 sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Antonine? Tu m'as surpris. Vas-y donc.
Ben, vas-y.
OK.
Non, je t'écoute.
Tu m'as surpris avec ton prochain point. Mark Carney pourrait proroger le Parlement. OK, attends une minute, là. C'est parce que là, l'année passée, on l'a arrêté, le Parlement,
oui.
le temps de monter Mark Carney sur la première marche du podium libéral et là, après ça, de dire « Regardez, le Messie est de retour! »
Il va nous sauver!
Vous pensiez que c'était Jésus-Christ? Non, c'est Mark qui va nous sauver de Donald!
Exact.
Puis là, Mark, c'est quoi? Je comprends qu'il n'aime pas ça à la Chambre des communes.
Non,
là.
Ça, on a tout compris
on
ça.
On a tout compris ça, il aime mieux faire des voyages, OK? C'est bien correct, là. Mais bon, obligé de la fermer parce que lui, il aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il la fermerait?
Bon, c'est pas parce qu'il aime pas ça. On va lui donner le bénéfice du doute. Dans le fond, il y avait un article ce matin dans le Globe and Mail qui rapportait, selon une source, Mike Carney réfléchirait à fermer le Parlement. Encore! Parce que je veux juste vous dire, à la fin de l'ère Trudeau, là,
ouais.
Premièrement, il ne se passait plus rien au Parlement.
C'est ça.
Tout était bloqué. Puis là, il y avait leur petite crise à l'interne. Puis ils étaient obligés de faire leur course à la chefferie à cause de ça. Puis à cause de ça, il y a eu prorogation pendant des mois parce qu'il y avait la course à la chefferie.
Fait que là, t'es prorogation, juste pour bien expliquer aux auditeurs et auditrices de Boulevard, c'est parce qu'on ne vote pas de projet de loi, on n'avance à rien.
Et non seulement on ne les vote pas, Jeff, on flush tout ce qu'on a fait sur les projets de loi.
C'est vrai,
donc
t'as
le travail
raison.
Qui a été fait en commission parlementaire au Sénat, on repart à zéro.
Donc là, ça veut dire que ce qu'on aurait fait comme travail, puis je vais te nommer un dossier que j'ai, qu'on a à cœur les trois, les chauffeurs à rabais. Mm. Avais-tu ça qu'on flush ça?
On flush tout. Tout repart à zéro. Après ça, tu peux redéposer. Si tu as des projets de loi, tu peux tout le redéposer, mais il faut que tu recommences. OK? Puis il faut que tu négocies. Donc là, bon, maintenant, ça, c'est le quoi. Le pourquoi. Pourquoi Mark Carney voudrait-il proroger la Chambre? Tu sais qu'il y a trois élections partielles dans les comtés fédéraux. Que Mark Carney a de bonnes chances de remporter.
Ben, il a juste besoin de deux maintenant sur trois pour remporter la majorité. Il va les avoir en Ontario,
il
c'est
ça. Il va les
sûr.
Avoir en Ontario. Il reste Terrebonne. Mais Terrebonne, c'est important quand même. Parce que même si tu as ta majorité, tu sais, c'est dur d'avoir une majorité, excuse-moi l'expression, ça affaisse de même parce que là, il faut vraiment que tout le monde soit présent au vote.
Oui, ouais, parce que là, s'il y en a un qui tousse de travers un matin, t'es dans le trouble.
T'es dans le trouble. Donc, puis faut des accidents, un parlementaire, ça arrive. Hein, des votes que tu pensais qu'ils allaient passer puis qu'ils passent pas. Puis des, mm-hmm. bon. Donc, il aimerait mieux gagner Terrebonne.
C'est clair.
Après ça, il va peut-être avoir M. Boulris. Nous verrons qu'est-ce qui s'en viendra par la suite. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si M. Carney a sa majorité? La Chambre des communes et les Sénats, le Sénat, tout était organisé comme un gouvernement minoritaire. Donc, en début de législature, on négocie puis on distribue les budgets parlementaires, les temps de parole, le nombre de sièges qui va, sur quelle commission parlementaire qui préside, etc. Donc, les oppositions ont beaucoup de place en ce moment.
C'est clair.
Et ce qui fait que si toi, tu as un projet de loi, tu es Mark Carney, tu as un projet de loi, puis que les oppositions décident de niaiser, là... Ton projet de loi, il ne passera pas.
Non, non, ils vont te
niaiser. Donc, lui, il aimerait ça reconfigurer les comités.
Pour avoir plus de pouvoir.
Bien, pour pouvoir gouverner en gouvernement majoritaire. Mm-hmm. S'il a sa majorité, il veut gouverner comme s'il y a une majorité.
Mais tu sais, ce qui est normal.
On comprend. En même temps, il est allé grappiller des députés à coups d'affection aussi. T'sais, on peut avoir un débat sur l'éthique et la véritable majorité a-t-elle été donnée par le peuple? Écoute.
Moi, je reviens avec ce que Gabriel Hardy nous a dit. Il y a des gens qui m'ont approché, trois députés libéraux qui m'ont approché dans l'ascenseur. Fait qu'il y en a eu des petites discussions.
Ah oui, je pense.
Hey, mon Chris, qu'est-ce que t'en penserais? Qu'est-ce qu'il y a besoin dans ton comté? La pêche est difficile. Viens avec nous autres, mon
Monsieur régler, Gabriel Hardy qui est au sein des conservateurs.
Oui, tu fais bien de le dire.
Donc, à partir de là, M. Carney n'est pas obligé de proroger pour réorganiser ces choses. En fait, il y a une autre option qui est de négocier avec les oppositions. Mais là, est-ce que les oppositions vont collaborer?
Mm-hmm.
On pourrait croire que ça ne collaborera pas. En même temps, les oppositions, ils veulent pas vraiment aller en élection.
Non.
Puis, tu sais, stratégiquement, là, moi, mettons, je suis les libéraux, ben je vais commencer par dire... Moi, ma stratégie, ce serait de dire, ben je vais négocier, j'invite les oppositions à collaborer, on a notre majorité, donc on va commencer des négociations. Je lâcherai ça dans l'espace public. Après ça, si les oppositions ne collaborent pas, je vais dire, écoutez, je n'ai pas d'autre choix que de fermer le Parlement. Ils ne collaborent pas, ils font de l'obstruction. Et là, au moins, tu fais porter l'odieux sur les oppositions. Je ne pense pas qu'il a fermé la Chambre tout de suite, nécessairement. Là, il semble que ce soit un ballon d'essai, en fait.
Ouais.
Ça a été coulé dans le journal. Là. Ils veulent voir un peu les réactions. Si ça réagit mal, ils vont essayer de procéder autrement. Si ça passe, parce qu'il faut le dire, le Mark Carney est très populaire en ce moment.
Ben
donc,
oui.
Je pense qu'il s'en permet un peu plus.
Ben, t'es déjà le Messie.
On entend ça beaucoup dans d'autres mots, mais ça ressemble à ça en ce moment, puis les sondages le confirment. Mais quand même, même si M. Carney est populaire,
je trouve que le travail de l'opposition et des médias est plus pertinent que jamais. Mm-hmm. Parce que, t'en as nommé tantôt, les chauffeurs à rabais, Curam, tout ce qui se passe avec l'immigration. Il y a encore un rapport de la VG la semaine passée qui nous disait qu'on ne vérifiait même pas les dossiers des étudiants internationaux qui avaient des red flags dessus. On l'accepte tout le monde.
De toute façon, on n'est même pas capable d'être malléable et flexible avec le gouvernement du Québec. On en a parlé hier avec les permis de travail. Hey, Antonine, tiens, tu as ton permis de travail temporaire. Ton chum, ah non, il retourne en France.
On en parle dans un an.
C'est ça.
Qu'il retourne en France, on verra quand, si ça marchait comme ça. Donc, il y a tellement de dossiers en cours qui demandent imputabilité. Qui demandent surveillance. Puis ça, c'est le travail des oppositions. Transparence. Et d'ailleurs, tu sais...
On s'entend dans Curam, là, on n'est pas transparent pantoute. Ouais. Stephen McKinnon nous rit en pleine face quand Carney parle.
Il dit que tout va bien.
Ben oui, c'est ça.
Tout va bien. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne reçoivent pas leur pension, mais on les imagine, nous autres.
Oui, puis Joël Lightbound, là, le gars qui était censé être avec nous autres hier, là, lui, il a dit que la maison est en ordre avec Phoenix.
Tout est en ordre.
116 000 personnes
Donc,
qui attendent encore.
On a besoin d'avoir un Parlement qui fonctionne.
Clairement.
T'sais, moi, je m'excuse, mais je trouvais ça scandaleux si on ferme encore le Parlement.
Ça fera pas de sens.
Puis, tu sais, un peu de productivité. On nous a promis maire et monde là, en élection l'année passée. Là. M. Cogny a promis de tout régler avec Trump. Ça,
c'est pas fait.
Puis, c'est pas nécessairement aux communes que ça va se faire. Mais on nous a promis aussi de transformer en profondeur l'économie. Ben oui, il y a les voyages, là, mais tu sais, je veux dire, notre appareil public fédéral est une catastrophe. Mm-hmm. Ils ont de la job, là.
Ben oui.
Puis moi, je compte sur les oppositions et la presse parlementaire à Ottawa pour les surveiller. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est de la faute à personne. Il y a des fiascos, il y a des scandales, il y a des inefficacités. De la faute à personne.
Pour la personne. Au fédéral, c'est trop loin. Donc, non, puis, tu sais, juste pour vous mentionner, il y a un excellent texte également dans le Journal de Québec aujourd'hui sur les régions du Québec qui sont mises à mal par les tarifs. On parle du Saguenay, de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est des régions qui étaient censées être sauvées par Marc, là.
Ouais, bon.
Ils sont pas sauvés.
Le sauveur est toujours attendu.
Dans le trouble. Hey, on a parlé des sondages hier. On a vu les premiers résultats de façon préliminaire. Ben, je veux dire, les grands résultats. Donc, on le rappelle, 33 % égalité PQ-PLQ, 41 % chez les francophones pour le PQ, 23 % pour le PLQ. La CAQ avec leur chicane fraîchette Drainville, c'est un grand coup de pied en arrière. On est parti. Ils sont à égalité QS avec 9 % 15 % pour le Parti conservateur du Québec. Là, hier, j'ai entendu les deux. J'ai entendu des gens dire, par exemple, Mario Dumont dire à 23 % francophones, le PLQ, ils vont toujours chercher un petit 3-4 de plus, la fameuse prémalurne PLQ. Oui. Je vois le PLQ minoritaire. J'ai entendu plein d'autres analystes dire PQ n'a pas trop à s'en faire, 41 % francophones qui continuent à frapper là-dessus, puis ils vont avoir leur gouvernement majoritaire. T'en penses quoi, toi?
Bien, les deux peuvent être vrais en même temps. C'est-à-dire que les plaques continuent de bouger. Là. C'est vraiment pas fixé dans le temps. Mais c'est sûr qu'à 23 % chez les francophones, les libéraux sont aux portes de quelque chose d'assez intéressant, mm-hmm. la zone payante.
Ben oui.
Okay? Donc, à partir de 25 % et on le sait, là, ils ont quand même un potentiel de croissance en région, dépendamment de ce qu'ils vont avoir comme positionnement. Puis là, c'est ça le drapeau qui se lève pour le PQ, c'est que pour l'instant, il y a un effet de nouveauté avec Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral. La nouveauté en politique, c'est quelque chose qui...
Là, je fais Charles Milliard.
Il sourit beaucoup pour les auditeurs, là, juste vous décrire.
Regardez sur Twitch.
Mais ouais, je suis pas contre les sourires. C'est juste, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on fait pour la
économie.
Santé.
Gestion saine des finances publiques.
Qu'est-ce qu'on fait pour la langue française, M. Milliard?
Économie. Gestion saine des finances publiques.
C'est quoi les seuils d'immigration que vous allez fixer, M. Milliard?
Économie. Gestion saine des finances publiques.
Est-ce que vous êtes pour ou contre d'aller un petit peu plus loin sur la laïcité puis interdire les signes religieux dans les écoles?
Ah, ça va être au tribunal à décider.
Ouais, c'est ça. Exact. C'est pas économie, ce coup-là.
Non, ça, il l'a déjà fait, cette réponse.
Donc, il y a quand même un manque de clarté présentement. Donc, ça va continuer à bouger. Oui, il y a quelques éléments qui me frappent parce que ça va affecter la stratégie des partis jusqu'à l'élection. Il y a des messages importants dans ce sondage-là.
Vas-y.
Notamment, la question des hommes et des femmes. Paul Saint-Pierre Plamondon ne pogne pas avec les mesdames.
Il est trop agressif, hein? Les mesdames
n'aiment
pas ça.
Est-ce que c'est ça l'explication? Peut-être.
Ben, les mesdames n'aiment pas Pierre Poilievre.
Ils n'aiment pas Pierre Poilievre non plus, les
mesdames. On s'entend. Pierre Poilievre et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est des gars qui se promènent dans un bar. La madame, elle regarde. T'sais, c'est des beaux bonhommes.
Oui, mais c'est pas ça.
OK, toi, tu fais une corrélation avec le fait que certains disaient que, Justin Trudeau était très good-looking, fait que
non,
ça
attire
un peu.
C'était fan de la chance aussi.
Ou Bruno Marchand.
Exact.
Non, mais ce que je veux dire, et puis honnêtement, j'ai ce préjugé-là, là. pour de vrai, là, tu sais, puis je le dis, puis je m'haïs quand je le dis, mais c'est vrai, tu sais. Quelqu'un que je vais trouver joli va venir s'exprimer devant
mais
moi.
Mais c'est pas juste toi, c'est scientifiquement prouvé.
Oui, oui. J'ai plus de chances d'être attentif à ce qu'elle dit scientifiquement qu'une autre dame que je trouve moins jolie, puis je m'haïs, parce que l'autre dame que je trouve moins jolie, sûrement, fait peut-être des propos qui ont plus de sens avec mes valeurs.
En politique, c'est un peu différent. Pour les femmes, par contre, je vous dirais que les belles femmes ont tendance à être plus sous-estimées, moins prises au sérieux. Cela dit, quelqu'un qui est joli, très
Colin, moi, je les prends au sérieux à mort. Fait que je suis complètement différent.
Mais c'est bizarre, toi, déjà.
C'est
vrai que les gens ont plus d'écoute et d'ouverture et sont plus attirés, même pas, on parle platoniquement, là, par des personnes qui ont une belle apparence. Donc, PSPP et Pierre Poilievre ne sont pas des hommes laids. C'est pas ça
exactement,
du tout l'enjeu.
Politiquement parlant, ils sont aux opposés. Comment est-ce qu'on explique qu'ils vont pas chercher la gente féminine?
Ils sont aux opposés sur la ligne gauche-droite ou nationaliste, certes, mais ils ont une approche qui est celle de remettre en question le statu quo.
OK.
Donc, puis là, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Votre opinion m'intéresse, puis vaut la mienne. Mais les femmes ont tendance à avoir un petit peu moins d'appétit pour des changements drastiques.
Donc, j'aime ce que tu amènes comme point.
Un petit peu plus de frilosité au risque.
Oui.
Par exemple, bon,
Pierre Poilievre... C'est comme ça en finance aussi.
Oui, absolument, absolument. Oui, absolument. Et, PSPP et le PQ proposent un changement qui est très drastique, c'est-à-dire sortir du Canada. Et puis même, j'ai envie de dire, historiquement, j'étais dans une soirée hier, puis la question a été posée aux panélistes, notamment Evelyne Baudin, là, qui est une ancienne, l'ancienne mairesse de Sherbrooke et qui a participé au livre qui fait dire oui. Puis la question a été posée, pourquoi les femmes... appuient pas davantage la souveraineté du Québec. Puis elle a amené un point intéressant que je vous partage. Elle a dit les crises, les gros changements, les mouvements politiques, les révolutions, ont toujours eu des conséquences négatives sur les femmes historiquement. C'est toujours les premières victimes quand il y a un petit peu plus de chaos dans une société.
Ouais, je comprends.
Donc peut-être qu'il y a une partie de la réponse qui est là. Cela dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout s'il veut faire un pays, il ne peut pas faire un pays. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu ailles un peu l'aval de tous les groupes de la société. Les femmes, quand même, 50% de la société. Ce n'est pas une minorité nécessairement. Donc, comment il va faire dans les prochains mois? Moi, je vais observer. Est-ce qu'il y a un changement d'approche? Est-ce qu'on va proposer davantage de choses qui peuvent parler plus à un électorat féminin? Donc, moi, je m'attends à avoir des propositions par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport aux garderies. Ça fait cliché ce que je dis, mais check les bains.
En effet.
Check les bains, on va voir.
Hey, on va checker ça, certain.
Puis, du côté de QS, c'est complètement l'inverse. Donc, QS ne pogne pas avec les messieurs.
Ouais, pogne plus avec les femmes.
Pogne plus avec les femmes.
Ben, je pense que je vois une corrélation, là. Puis honnêtement, avec le discours que j'entends en société, tu sais, le discours identité de genre, tu sais, ce
finance,
discours-là.
Finance, moi, je vois.
Ouais, finance, où QS est très dépensier, très gouvernement, qui intervient
plus
dans
les filets sociaux.
Exactement.
Où tout le monde contribue.
Parle-moi à la gente masculine.
Puis, ouais, exact. Puis remettre en question l'hégémonie de l'homme blanc. Ne plaît pas à l'homme blanc, peut-être.
Ben non, exactement. T'as entièrement raison, maudit QS.
Maudit QS. Donc,
ben
non, je pense que vos hypothèses sont les bonnes.
J'aime
mais
ça.
Tout ça pour dire que les partis politiques vont voir ces résultats-là. Bon, des fois, tu peux te dire, ben nous, on va se concentrer sur ce qu'on a déjà, on va consolider nos acquis. Mais c'est sûr que tu veux aller chercher de la croissance. Ben là, il va falloir que tu ailles parler un petit peu plus à d'autres groupes. Tu peux pas juste parler tout le temps à ta base.
Ouais, puis QS n'aura pas le choix là, d'agrandir ça avec un volet plus féminin. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Du côté des âges, chez les jeunes, c'est les libéraux qui sont premiers en ce moment. Hein? Puis on avait vu il y a quelques temps, par exemple au fédéral, les jeunes étaient très attirés par les partis de droite, par le Parti conservateur, le PCQ dans la région de Québec, notamment les jeunes étaient très... Bien, les libéraux sont en train de faire un retour
chez
les jeunes.
Ben oui, je sais, j'ai vu ça. Ça m'a étonné.
Comment vous l'expliquez? Ce serait quoi vos hypothèses? Moi, j'en ai une, mais...
Que les jeunes se tournent plus vers les libéraux? Je pense que on parle beaucoup d'argent, puis le coût de la vie prend énormément de place chez les jeunes, accès à la propriété qui est pas là. Donc, je pense que ça, le discours, justement, là, t'sais, la blague que je faisais, économie, saine gestion des finances publiques, mais ça accroche les jeunes
ça
à l'heure actuelle.
Ça peut parler aux jeunes, oui.
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été non plus aux premières loges de tous les scandales. Fait que pour eux, ça pèse peut-être pas autant que certaines générations. Puis ça semble être un petit peu plus... sans être au centre au niveau de l'échiquier politique, un peu plus au centre sur si tu fais l'addition de tout ce qu'il présente.
Bien,
sans
moins
dans
centre,
les extrêmes.
Le Parti libéral. Ouais.
Bien, surtout en 2026.
Puis avec un chef qui est un peu plus jeune, qui peut projeter une image qui est plus jeune. Je pense aussi que la montée de la popularité, de la souveraineté chez une partie de la jeunesse fait en sorte peut-être de faire remonter certains autres jeunes qui disent « Hey, wow, là, on nous dit que les jeunes sont pour la souveraineté. Moi,
wow,
non. » Manette. Fait que, est-ce qu'il pourrait avoir une mobilisation autour des libéraux des
ça.
Jeunes?
C'est-tu quoi? Je trouve qu'on a trois...
Partie bonne, d'explication.
Ouais, trois bonnes explications, trois bonnes solutions.
Puis en terminant, chez la CAQ, eux, c'est vraiment le contraire. Les jeunes ne veulent rien savoir de la CAQ. Bon, tu vas me dire, selon les résultats, personne ne veut rien savoir de la CAQ, mais particulièrement, c'est pas présent. Et du côté des 55 ans et plus, QS, écoute, c'est zéro.
C'est zéro, hein? On ne veut rien savoir.
Zéro.
Non, c'est ça. On est
donc, on voit les défis, de tous les partis à travers ces résultats-là. Quand on va au-delà juste des intentions de vote national, d'après moi, ça va alimenter les stratégies des partis. On va observer ça ensemble. On verra si nos hypothèses se confirment.
Je te fais confiance pour qu'on suive ça. Dès que PSPP fait une annonce et CPE, je vais dire «
Ha-ha! »
Tu l'avais dit, Antonine Iaccarini. Pascal CV, Breaking News.
Oui, je dois vous couper parce que celle-là, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Je pense que personne ne l'aura vu venir. L'attaque au sabre dans le Vieux-Québec, alors en 2020, ça nous a tous marqués. Bien, Carl Giroir va avoir droit à un nouveau procès.
Hey.
On vient d'invalider le verdict de culpabilité au niveau de la cour d'appel. On ordonne un autre procès, un deuxième, concluant que le jury aurait dû être instruit sur le silence de l'accusé en interrogatoire. Donc, cour d'appel du Québec qui ordonne ce nouveau procès pour l'attaque au sabre dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween. Et il y aurait... plus de détails à venir. Là, ça vient tout juste de sortir.
On parlait des familles tantôt dans le cas de Gilbert Rozon et des victimes vont avoir à se retaper un deuxième procès.
Oui, c'est ça qui est douloureux.
Ah oui,
parce que moi, ça ne m'inquiète pas trop que ça va finir un peu de la même manière.
Ah,
mais
il y a des images. Il y a pas mal de preuves tangibles pour ce qui est de Carl Giroir, mais présentement, il faut dire qu'il est accusé pour justement l'attaque au sable dans le Vieux-Québec à l'Halloween. Merci beaucoup, Pascal Cévé, pour ce Breaking News. Après la pause, on fait deux choses. On parle premièrement avec une avocate spécialisée en recours civil lors de dossiers qui concernent des agressions sexuelles, c'est-à-dire Alexandra Fadel. On va revenir sur le cas de Mohamed Bekadi, cet homme super bien, qui a un bon langage envers les policières à Montréal. Vous comprendrez mon sarcasme. Et Alicia Despins également va être avec nous. On parlait des vacances du maire Marchand. Sont-ils bien choisis ces vacances à Paris pendant que c'est le bordel des travaux du tramway? On fait tout ça dans un instant à Boulevard 101, à l'émission On en jase.
On en jase à Boulevard 101.
Il est exactement 12h39, émission en jase à Boulevard 102.1. À la météo, c'est des nuages pour les prochains jours, la gang. 0 degré aujourd'hui, généralement nuageux. Neige mêlée de grésil cette nuit avec une température qui va descendre à moins 8 degrés. Demain, nuageux, 2 degrés. Jeudi, nuageux, 2 degrés. Il y aura peut-être retour de neige ou de pluie. Vendredi avec 3 degrés. Au thermomètre. Pascal, avant de parler avec notre avocate spécialisée justement au civil pour les cas d'agression sexuelle, c'est-à-dire Mme Alexandra Fadel, rappelle-nous le jugement qui concerne Gilbert Rozon.
880 000 $, c'est ça la somme que devra payer Gilbert Rozon à 8 des 9 femmes qui avaient entamé un procès civil contre l'ex-magnat de l'humour. La juge Chantal Tremblay a cru davantage la version de ces 8 sur 9 femmes-là. Donc, les femmes qui affirmaient avoir été agressées sexuellement, c'est la fin d'un long processus judiciaire, ça a duré près de 10 ans. Plaignante qui réclamait initialement 14 millions de dollars. Gilbert Rozon n'a pas voulu émettre de commentaires cette fois-ci, ce matin. Il faut savoir que les versions retenues sont celles, et je veux les nommer, Danick Charrette, Guylaine Courcelle, Lynn Charlebois, Anne-Marie Charrette, Sophie Moreau, Martine Roy, Patricia Tulane et Dani Frenette. La seule qui n'a pas été retenue, c'est celle de Marilyn Sicari. Elle a été rejetée.
Pour en parler avec nous, on a l'avocate spécialisée pour Jury Pop, spécialisée dans les recours civils en matière de violence sexuelle, Alexandra Fadel. Alexandra, merci beaucoup pour ta participation à l'émission d'En jase ce midi.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Alexandra, tout à l'heure, on en parlait avec Antonine Iaccarini, notre chroniqueuse politique, et on disait, il me semble qu'on a toutes fait un gros ouf, c'est un jugement qui est favorable, pas en totalité, mais favorable aux victimes des actes de Gilbert Rozon. J'imagine que ça va aider justement les futures victimes et les victimes actuelles à venir témoigner et entreprendre des procédures judiciaires.
Tout à fait. C'est un jugement qui est très positif de façon générale. On voit que la juge a considéré que les violences sexuelles devaient être prises au sérieux, peu importe le statut social de l'agresseur, et on espère effectivement que ça va encourager les personnes victimes à tenter ce processus-là également.
Quelle est la différence entre une procédure justement criminelle et une procédure au civil? Puis là, comme on sait que Gilbert Rozon, il n'y avait pas de plainte qui avait été retenue au criminel, je vais te poser la question délicate. Est-ce que les victimes sont mieux de dénoncer leurs agresseurs au civil?
C'est vraiment du cas par cas, puis ça dépend de la situation de chacune. C'est deux processus qui sont tout à fait différents, avec des fardeaux de preuves qui sont différents. Donc, au criminel, on a le fardeau de preuves hors de tout doute raisonnable, alors qu'au civil, on a un fardeau de preuves qui est moins exigeant. Il faut démontrer que c'est plus probable qu'improbable que les agressions ont eu lieu. Donc oui, il y a un fardeau qui est moins élevé, mais il y a d'autres considérations à avoir en tête. Ici, dans le dossier des courageuses, on voit qu'il y avait des plaintes qui avaient été déposées. Malheureusement, il y avait aussi dans le dossier de Mme Annick Charrette un jugement qui a acquitté M. Rozon au criminel. Pas parce qu'on considérait qu'il était innocent, mais parce qu'on n'arrivait pas à rencontrer ce fardeau de preuves, là, hors de tout doute raisonnable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on a un refus là, au criminel, on peut quand même introduire une action civile puis aller chercher des montants en compensation.
Les montants en compensation, on s'entend que des fois, bon, ça va couvrir les frais juridiques, ça va couvrir aussi peut-être les soins psychologiques qu'on a eu besoin, etc. Mais est-ce que ça change vraiment la donne pour les victimes quand vous les rencontrez puis vous les voyez quand ce genre de verdict le sort?
C'est sûr que dans le dossier des courageuses, les montants qui ont été octroyés sont beaucoup plus bas que ce qui était demandé. Les avocats l'invitaient, la juge a vraiment, dans une optique de réforme du droit, aller accorder des montants qui étaient plus représentatifs de l'ampleur des dommages que les personnes vont vivre. On le sait, c'est des conséquences qui sont psychologiques, mais également sur la capacité à travailler, des conséquences sociales, sexuelles, donc des dommages qui auraient, selon nous, pu être plus élevés là, que ce qui a été octroyé. Mais quand même, le processus en soi peut consister, même si on n'arrive pas à des montants qui sont autant importants qu'on aurait souhaité. On a quand même un jugement là, qui vient valider l'ampleur des conséquences, qui reconnaît la violence sexuelle, puis également, ça peut constituer une belle reprise de pouvoir pour les personnes victimes, peu importe le montant.
Jeff disait, bon, ça va sûrement encourager d'autres femmes à porter plainte et tout ça. On espère toujours que ce soit le cas, surtout quand ce sont de réelles victimes. C'est très difficile, je pense, là. Ce que vous voyez comme tendance actuelle en matière de poursuite civile pour violence sexuelle, ça ressemble à quoi?
Sans dire que c'est une tendance, mais on voit que c'est un recours qui est de plus en plus connu, qui gagne encore à être connu, qui offre effectivement pour certaines personnes victimes une compensation qui vient vraiment tenter de les remettre dans la situation qu'elles étaient avant les agressions. Donc ça ne répare pas tout l'argent, mais ça vient offrir une certaine compensation. Donc on voit que c'est des recours qui sont de plus en plus connus, oui.
Un cas avec une personnalité publique comme Gilbert Rozon, j'imagine que ça va aider justement les victimes à connaître ce recours-là.
Oui, effectivement, de voir que même une personnalité publique n'est pas à l'abri d'un jugement du tribunal qui condamne à des montants, plusieurs centaines de milliers de dollars, effectivement, ça pourrait être encourageant pour les personnes victimes, on le souhaite.
En terminant, Alexandra Fadel, qui est avocate senior chez Juripop, spécialisée dans les recours aux civils en matière de violences sexuelles. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire sur la façon de procéder en contre-interrogatoire? Et je m'explique, moi, juste que je trouve que les avocats de la défense sont tough avec les potentielles victimes. Y a-tu de quoi à faire pour que ça soit plus bienveillant, ces communications-là et ces contre-interrogatoires-là?
Oui, en fait, tout nouvellement, là, il y a un article qui a été adopté puis qui maintenant interdit là, de soulever des mythes et préjugés à l'égard des personnes victimes. Donc, ça l'empêche maintenant là, que ça existait déjà là, dans une certaine mesure aux criminels, mais aux civils, on n'avait pas vraiment de mécanisme. Maintenant, on a ce mécanisme-là qui existe qui fait en sorte que les personnes n'ont pas à subir un interrogatoire qui devient humiliant ou qui atteint à leur dignité. Il faut, avant là, de poser des questions qui relèveraient de mythes et préjugés, de s'assurer d'avoir l'autorisation du tribunal pour démontrer bien, en quoi c'est pertinent là, dans notre dossier que cet avocat-là pose certaines questions sensibles. Donc, on espère que ce nouvel article de loi-là et ce nouveau mécanisme-là, qui a été validé là, avec l'affaire Roson, puisse aussi permettre d'avoir des interrogatoires plus respectueux là, des personnes victimes.
Ah, je le souhaite tellement. Alexandra Fadel, avocate senior chez Jury Pop, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps ce midi à l'émission d'En Jase. Je sais que ton horaire est très chargé.
Merci à vous. Au revoir.
Salut, merci Alexandra Fadel. Merci Pascal pour nous avoir trouvé cette excellente communicatrice et avocate dans ce dossier-là. Je pense que ça valait la peine là, justement de parler de ces recours potentiels aux civils qu'on n'entendait pas beaucoup parler au Québec, veux pas, avant le cas Gilbert Roson.
Oui, tu as raison. Puis souvent, c'est une déception hein, quand on est rendu au civil.
Écrime-oui.
C'est qu'on a vécu déjà des choses très complexes en justice. Ils prennent les recours qu'ils peuvent, mais l'accompagnement est essentiel. Quand on voit le déroulement, on est en train de s'améliorer là-dessus. Mais je reviens à, on ne néglige pas le fait que des fois, il y a des gens qui s'en vont en cours et que c'est pas vrai ce qui s'est passé,
en
que
effet.
Ce soit masculin, féminin. Quand c'est vrai, par exemple, Jury Pop, entre autres, là,
ouais.
et d'une aide exceptionnelle pour les victimes. Ça doit être tellement chargé. Là.
Ben oui. Donc, félicitations à Jury Pop d'accompagner ces victimes.
Le midi, on en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mes
temps s'arrêtent. On en jase.
Jusqu'à 14h, l'émission d'En Jase. On est maintenant rendu à vous informer d'autres nouvelles que l'excellente nouvelle sur le jugement qui concerne Gilbert Roson. Également, on va revenir sur Mohamed Bekadi, cet homme au langage particulier envers les policières, parce que Pascal t'a parlé avec Roger Ferland. Mais avant tout ça, les manchettes.
Oui, ben l'attaque au sable dans le Vieux-Québec à l'Halloween 2020, je pense qu'on est absolument tous impactés par ça. Ça revient dans l'actualité. Jeff, on a appris qu'Carl Girouard va avoir le droit à un nouveau procès. On a peu d'informations pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que la Cour d'appel a invalidé le verdict de culpabilité. On ordonne un deuxième procès. On a conclu que le jury aurait dû être au courant sur le silence de l'accusé en interrogatoire. On retourne en cours avec ça.
Je pense aux victimes, justement, de cette attaque au sable-là. Les familles qui ont perdu des gens dans cette attaque-là. Je vous souhaite bon courage de vous taper un deuxième procès.
L'entraîneur Beauceron est suspendu 5 ans par Hockey Québec. C'est ce qu'on a comme nouvelle dans Chaudière-Appalaches. C'est Steve Beaudoin qui a déjà été frappé par un parent après avoir arbitré un match de hockey à Lac-Etchemin. Vous en aviez parlé.
Oui, ça a fait la manchette de ça à peu près 3 semaines.
Exact. Ça, c'est les nouvelles qu'on a sur le dossier. Donc, suspendu 5 ans par le comité de discipline régionale de Hockey Québec. C'est en lien avec plusieurs manquements disciplinaires. Là, on n'a pas pu établir le nombre exact de parties où un joueur suspendu aurait pu être utilisé quand il ne pouvait pas jouer. Mais c'était des choses qui arrivaient, puis on s'en est rendu compte. Voilà pourquoi on a sanctionné.
On a très bien fait dans ce cas-ci. Vous viviez sous une roche, les amis. Vous vous demandez qui est Mohamed Bekadi. Bien, je vous remémore le tout.
Ouais, tu m'as écouté quoi? Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Et quand je suis sorti, t'es venu m'arrêter.
Non, je suis là puis j'attends.
Ferme ta gueule, sale pute, tu m'attendais là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute.
Je félicite Yannick Marceau d'avoir amené ça sur nos ondes hier matin. Ça a donné une vraie traînée de poudre dans les médias. Et là, Pascal, toi, tu as parlé avec Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, avec qui on collabore régulièrement, parce qu'on se demande tous, coudonc, ce gars-là, il aurait-tu pu être arrêté, menotté, puis amené hors d'usage parce que ça n'a aucun sens de la façon qu'il s'exprime à cette policière.
Tu sais, il y a la policière, mais il y a d'autres vidéos qui sont sorties juste avant qu'on entre en onde. Le gars, c'est un récidiviste de violence, de commentaires, disgracieux envers les policiers. Ça se passe toujours à Montréal. Puis ça, retenez ça, à Montréal, oui, c'est différent qu'à Québec. Hier, c'est venu me chercher dans les entrailles, puis il y a des auditeurs qui me disaient « Pascal, on veut une envolée lyrique de ta part et tout ça. » Mais avant ça, il me fallait des réponses à mes questions. Puis c'est pour ça que j'ai parlé à Roger Ferland, qui est ex-enquêteur au service de police de Québec. On va y aller doucement. Moi, j'ai demandé, première question, est-ce que ça demande plus de patience d'être policier, policière en 2026?
Ce qui m'a... C'est pas du tout une question de sexe dans les circonstances. Ou de...
Ce qu'il m'a dit, c'est que oui, ça en nécessite plus de patience en 2026. Parfait, affaire classée. Donc, deuxième question que j'ai posée, tu sais, on voit bien que c'est une policière dans la vidéo que tu nous as fait entendre. Elle semble seule.
Mm-hmm.
Il y a un genre de manque d'intervention là, qui est décrit du public, un manque de sévérité. Est-ce que c'est une évaluation du danger ou encore là, c'est parce que c'était une femme?
C'est pas du tout une question de sexe dans les circonstances ou de. Par contre, c'est une question de pouvoir et de devoir et d'obligation que les policiers ont. Même moi, je restais un petit peu surpris au départ quand j'ai vu. J'ai même cru que c'était peut-être l'intelligence artificielle tellement c'était gros comme situation. Mais je comprends très bien maintenant. SPVM n'ont aucun pouvoir en matière d'infraction pure qui s'appelle insulte agent de la paix. Ça n'existe pas dans leur dans les pouvoirs qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent utiliser. Alors, les policiers. La seule affaire que je verrais qu'elle aurait pu utiliser, ça aurait été de se rendre à intimidation, menace. Mais est-ce qu'on est là dans les propos que le gars tient? Il tient des choses qui sont de cet ordre-là. Mais voyez-vous, est-ce qu'on est capable, si le policier écrit cette infraction-là, qui est une infraction criminelle, à ce moment-là, qui donne des pouvoirs d'arrestation, est-ce que les procureurs de la Couronne vont soutenir et vont supporter l'action que les policiers ont eue et la perception que les gens avaient? Alors, c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est triste, mais ce règlement-là n'existe pas à Montréal.
Fait qu'on vient de répondre à la question.
Ouais, il serait temps qu'il existe, le règlement, hey, tant qu'à moi.
Puis tu sais, hier, rappelle-toi, on était en émission, on voyait la mairesse de Montréal faire un point de presse là-dedans, dire que c'était inacceptable et tout ça. Puis ça n'a vraiment pas impressionné Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec, dans les propos de la mairesse de Montréal.
Entre toi et moi, j'aurais beaucoup aimé hier entendre autre chose du commentaire de la mairesse, de nous dire qu'on n'en a peut-être pas besoin à Montréal. Mais je peux te dire que quand on insulte des politiciens en ce moment, qu'on insulte des gens du public, les gens l'ont, ce pouvoir-là. Pourquoi que là, il serait pas approprié? En tout cas, je trouve ça, j'ai vraiment pas apprécié son commentaire. Je pense que si on veut des policiers efficaces en ce moment, faut qu'on leur donne les bons outils de travail, puis qu'on lui permette de faire leur rôle d'arbitre. Parce que ce gars-là, hier, outrepassait vraiment toutes les bornes. On n'était même plus dans les règles de bienséance, on était dans une autre catégorie à l'époque.
Je suis tellement d'accord avec Roger. Il faut que les gens qui se comportent comme ça avec nos forces policières, on ait le pouvoir de leur mettre les menottes et de les amener au poste de police.
Mais du moins, de faire quelque chose. Puis tu sais, le règlement, il existe à Québec. Il a été adopté. Et ce que ça fait, c'est que ça au moins nous permet de les ficher. Puis
exactement.
Le gars, c'était pas sa première intervention violente envers des policiers avec une interception. L'interception est jamais pour rien dans ce cas-ci, c'est ce qu'on plaide au niveau policier. À Québec, on l'a. Ça ressemble à quoi, ce règlement-là qui nous donne plus de pouvoir?
À Québec, il y a un règlement qui existe. Puis toutes les villes qui se le sont votées, qui permettent aux policiers, dans le règlement de bon ordre et paix, insulte agent de la paix, si c'est là, ça existe. Alors, c'est une infraction qui peut être remise. C'est un biais d'infraction. Si la personne refuse de s'identifier, là, tu peux te rendre à l'arrestation pour procéder à son identification, mais tu ne peux pas l'arrêter pour une infraction de ce type-là, qui est au niveau du code de procédure pénale. Là. On n'est pas au niveau du code criminel. Mais ça donne des pouvoirs aux policiers de cesser l'infraction qui est en cours. Québec, Lévis, plein de villes ont ça. Là. Sauf que Montréal, pour diverses raisons, est-ce qu'ils l'avaient déjà ou ils l'ont perdu? Je me souviens pas dans l'histoire. J'avais l'impression qu'il l'avait, moi, là, parce que d'avoir travaillé au SPVM. Mais je comprends maintenant, je peux vous dire, en 2026, ils ne l'ont pas. Alors, tu es obligé d'encaisser un peu certains commentaires injurieux ou impolis des gens dans la limite où ça ne devient pas de l'intimidation ou de la menace.
Puis je fais peut-être un parallèle boiteux, mais avec tout ça, avec le fait qu'on a renforcé au niveau de nos services policiers les règles à Québec, quand il y a des manifestations à Québec, ça se passe toujours mieux qu'à Montréal.
Oui, ben t'as raison. Ça fait longtemps depuis le sommet des Amériques hein, qu'on a eu affaire à ce genre d'encadrement-là. Et ça se passe bien jusqu'à maintenant, du moins le plus possible.
Exactement. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir parlé avec Roger Ferland. C'était très intéressant. Et on va continuer la suite de ce dossier-là après la courte pause de tout à l'heure, quand Rémi Villemur va venir s'installer avec nous. Rémi, ça demande, sont où les féministes? Bonne question, hein? On n'a pas bien entendu parler de ce dossier-là hier, notamment Ruba Gazal, la co-porte-parole de Québec solidaire. Mais en attendant, on s'en va en chronique avec Alicia Despins.
À Boulevard 102, Pascal Cévé.
Sont où les féministes dans le dossier de cette policière-là? C'est une question qu'on se pose grandement. Mais une autre question qu'on se pose aussi par les temps qui courent. Il est où le maire Marchand? On le voit pas à la Ville de Québec. Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, on est parti en mission en Alberta du côté du maire Marchand la semaine avant le début des travaux du tramway. On revenait un petit deux jours à Québec, le temps de faire deux petites vidéos QT sur les médias sociaux en disant « Québec, c'est une ville qui s'adapte ». Puis bang, on a pris un avion pour repartir à Paris avec notre conjointe. On rate le conseil municipal aujourd'hui, puis on n'est pas là pour les commerçants qui en arrachent comme tout. Le timing est mauvais en tabarouette, hein?
Il y a tellement d'affaires là-dedans, c'est fou, là. Puis, tu sais, je pense qu'on se pose beaucoup la question par rapport au maire Marchand parce que le municipal, on se le rappelle, c'est supposé être le palier le plus proche des citoyens. Fait que cette proximité-là, si on n'est pas capable de la ressentir, ça devient difficile là, à gérer tout ça, là. Là-dessus, moi, habituellement, je serais la première à dire, tu sais, que les élus ont droit, un, à leur vie privée, ont droit à des vacances, tu sais, c'est souhaitable là, pour les élus
d'avoir
toute leur énergie, c'est super important. Ceci dit, c'est justifié de se poser la question dans la mesure où Bruno Marchand choisit de divulguer sa vie privée en ligne, puis surtout, effectivement, c'est un drôle de timing, là. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans les raisons des changements des dates du conseil de ville, il y a quelques années, il y a une séance du conseil du mois de mars qui a été enlevée pour concilier travail-famille pour la semaine de relâche. Parce que là, ça devenait difficile. Fait que dans le mois de mars, il y a une séance de moins du conseil de ville. Ça fait plusieurs semaines d'affilée sans conseil. C'est un moment parfait pour partir en vacances. Ça fait pas mal d'éléments, là.
Je suis content de t'entendre là-dessus parce que ce matin, je disais dans Marceau le matin, écoute, il y avait la semaine de relâche pour partir en vacances comme n'importe quel enseignant, enseignante. Puis il y a l'été, parce que veut, veut pas, dans les deux semaines de la construction, c'est plus tranquille, comme nos honnêtes travailleurs de la construction qui nous écoutent à l'heure actuelle. Fait qu'à un moment donné, c'est pas comme s'il y avait pas des opportunités d'aller en vacances.
Il y a le mois de janvier aussi, qui a juste une séance du conseil de ville. Fait que ça fait quand même quelques opportunités. Puis dans tout ça, tu sais, on pourrait dire que c'est un concours de circonstances, puis que c'est tout ce qu'il y avait de disponible. Puis là, bon, OK, à un moment donné, il faut qu'ils prennent des vacances. Mais au final, Bruno Marchand, il avait le plein contrôle, un, sur les dates de sa mission en Alberta. Il n'y a rien qui justifiait de faire ça à ce moment-là précisément. Et sur les dates d'annonce puis de communication des travaux sur le tramway. Donc, de choisir de faire ça tout en même temps, juste avant ses vacances, il y a comme un manque de jugement, finalement, à travers tout ça, là, qui amène cette critique-là de l'agenda du maire Marchand qui est très peu présent à Québec. Puis moi, je trouve ça pas fou, l'hypothèse de respect citoyen, que le maire, fraîchement élu, avec une forte majorité, peut-être qu'il est juste un peu trop à l'aise, là, qu'effectivement, il pourrait y avoir du relâchement. Après ça, toi puis moi, tu sais, je pense pas qu'on va faire deux semaines de nouvelles avec ça. Le travail va se poursuivre à la ville. Il y a des gens compétents sur le comité exécutif. Fait qu'il va aussi falloir que Respect Citoyen trouve d'autres sujets à développer là, dans l'espace public. Mais moi, je leur dirais, hey, prenez cette opportunité-là. Le maire sera pas là. Prenez l'espace médiatique. Là, ça va être disponible. Là.
Et une petite parenthèse sur Respect Citoyen. Si Stéphane Lachance s'est plaint pendant la campagne électorale, qu'on a sorti la nouvelle sur ses tickets impayés. Là, il n'a plus le droit de se plaindre qu'on joue dans sa vie privée parce qu'ils viennent de jouer dans celle du maire. Moi, j'ai zéro problème à ce qu'il l'ait fait, mais il faut juste qu'il arrête de parler des deux côtés de la bouche. Et soit dit en passant, c'est le Journal de Québec qui a sorti la nouvelle, le fameux Journal de Québec qui paraît protège Bruno Marchand selon Stéphane Lachance. Donc là, ça fait deux choses sur lesquelles il faut qu'il se taille.
Oui, c'est un très bon point.
Mais il y a une question d'apparence dans tout ça. Moi, je suis tellement divisée. J'ai l'impression qu'il y a une couple d'auditeurs aussi qui pourraient l'être. Soit, hey, il peut avoir des vacances. En même temps, dans les projets actuels, avec les travaux préparatoires, déjà, il n'était pas à Québec la semaine dernière. Ça a beaucoup dérangé. On aurait-tu pu s'attendre à ce que cette semaine, juste au niveau de l'image, même si ça ne change absolument rien à ce qu'il soit dans la ville de Québec, il y aurait dû... Tu sais, il y a ça en politique, non, Alicia?
Ben, c'est pas vrai que ça aurait pas changé le fait qu'il soit à Québec, là. Je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Je pense que ça aurait changé quelque chose dans la communication, le fait d'être sur le terrain, d'aller voir les commerçants, de se faire voir. Parce que Bruno Marchand, il a dit pas plus tard que la semaine dernière que ça avait été un échec, là, les communications pour les travaux, puis qu'il allait rectifier le tir. Mais je pense que ça s'applique à lui aussi personnellement.
Ça, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord là-dessus, Alicia. Mais des fois, en politique, est-ce qu'il y a des moments où l'apparence compte plus que la réelle présence? Ils en prennent des vacances à un moment ou à un autre, mais il faut que tu les calcules, il faut que tu les réfléchisses. Je ne peux pas croire. Ça peut ternir ton image politique, non?
Mm-hmm. Effectivement, mais on est beaucoup là-dedans. On est dans l'apparence, on est dans l'image qu'on projette, puis c'est ça la réalité. Le symbolisme, des fois, il est aussi important que le concret, que les efforts qui se font. Puis si tu fais des efforts de communication, ben il faut aussi que tu les montres. Fait que tout ça est imbriqué l'un dans l'autre. Tu ne peux pas faire des actions concrètes sans avoir l'air de faire des actions concrètes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Alicia, deux sujets en rafale pour terminer. Le premier, y a-t-il moyen qu'Ottawa et Québec arrêtent de chicaner et que nous autres aussi, on aide de l'argent pour le transport en commun? Puis là, je sais qu'on a des auditeurs qui sont propres au transport en commun, mais à un moment donné, ça en prend un. Ça en prend un qui fonctionne. Puis pour ça, malheureusement, oui, ça prend une réorganisation du RTC, mais ça prend aussi des dollars. Puis là, bien, on chicane tout le temps de Québec et Ottawa, ce qui fait en sorte que l'Ontario vient de recevoir 2,3 milliards de dollars pour le fonctionnement de leur transport en commun, puis nous autres, on a zéro pièce. Ça n'a pas de bon sens, là.
Bien, puis tu sais, les auditeurs, ils ont beau être pour ou contre le tramway. Je pense que tous les auditeurs ont presque sont pour le fait que le Québec s'ajoute de part des investissements du fédéral, donc
ben oui.
qu'on ait notre part là, dans tout ça. Puis le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, il a raison de dire que ça commence à ressembler à une mauvaise blague. Là, c'est pas drôle là, quand tu regardes les chiffres là, qui ont déjà été octroyés par province, puis que le Québec est en bas à zéro, ça n'a aucun bon sens. L'argent existe, mais l'entente ne se conclut pas. Puis oui, le tramway, mais finalement, c'est tous les projets à travers le Québec que ça fragilise et que ça reporte. Là. Ici, à Val-d'Or, la Ville a annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui qu'elle mettait sur la glace le projet d'autobus en raison des coupes des programmes au provincial. Fait que là, ça fait pas mal de stock. Là, je vais mettre une hypothèse, puis tu pourras me traiter d'optimiste après, si tu veux.
Vas-y donc!
Regarde, j'extrapole à travers l'article d'Olivier Lemieux de Radio-Canada, tu sais, je lis que Jonathan Julien ne souhaite pas commenter. De même, ça a l'air simple. Mm-hmm. Mais je lis aussi que Gregor Robertson au fédéral n'a pas non plus donné suite. Moi, ça me dit que les discussions se poursuivent parce que ça peut être une stratégie quand on fait face à une impasse de sortir sur la place publique, de hausser le ton, puis de déplacer cette discussion-là, ce dialogue bilatéral-là sur la place publique avec les médias, avec l'opinion publique. Fait que moi, tant qu'aucun des deux parties le fait, ben, je prends pour acquis que cette conversation-là, elle se poursuit. Je garde espoir que ça se règle avant l'automne, mais dans tous les cas, on ne pourra pas appeler ça une victoire pour personne parce qu'on va avoir perdu énormément de temps.
Tu sais quoi? Je te trouve pas optimiste, je te trouve réaliste. Je suis d'accord avec toi. Surtout que Jonathan Julien nous a habitués par le passé à faire ce genre de sortie publique-là quand ça ne
exact.
Va pas bien.
Oui, je pense qu'il est capable de faire ça.
Ouais.
Absolument.
On termine avec Lévis. Ma grande question, Stephen Blaney en campagne électorale, là, il n'y avait pas conscience c'était quoi le moratoire? Parce que là, il l'a prolongé de 2 ans. Il avait dit, hey, la taxe sur les portes. Et là, pour expliquer aux gens, la taxe sur les portes, c'est dans des projets de construction, il va avoir une redevance. Dans le secteur Saint-Nicolas, c'est 5 390 $ par nouvelle porte à l'entrepreneur. Dans le secteur de Saint-Romuald, c'est 4 140 $. Et dans le secteur de l'étang des Jardins, c'est 2 780 $. Lui, il avait dit « on fera pas ça ». Mais là, il n'aura pas le choix de le faire parce que Gilles Laulier, il a laissé tout qu'un fardeau sur les épaules.
Bien, puis Stephen Blaney, je pense que le piège principal dans lequel il est tombé comme candidat à la mairie de Lévis, c'est de promettre une échéance pour prendre une décision alors qu'il n'était pas élu. Là. Fait que
ouais.
Peut-être qu'il n'avait pas toutes les informations en main pour pouvoir promettre ça. T'es toujours mieux de pas te peinturer dans le coin en campagne électorale, à moins de savoir exactement ce que tu fais. La meilleure réponse qu'il aurait dû avoir finalement à ce moment-là, c'est de dire qu'il va commencer par prendre connaissance des dossiers une fois élu. Là, il avait dit 4 mois pour trancher, ça fait 5, puis là, il vient de tomber dans un deuxième piège des journalistes sur le sujet, c'est-à-dire de pas vouloir commenter le dossier, donc de refuser d'occuper le vide. Ce vide-là, il va se remplir, que ce soit par du mécontentement du milieu économique, puis à un moment donné, ils vont vouloir savoir
ben
ce qui
oui.
se passe, ou par des prises de position des oppositions. Donc là, tu perds l'opportunité de contrôler le message. Là.
En effet. Alicia Despins, merci infiniment pour cette excellente chronique de politique municipale. Puis content de savoir que tu partages avec moi le fait que c'était pas le bon timing pour Bruno Marchand.
Pas du tout.
Cool, salut
bonne
Alicia.
Journée,
merci,
bye.
Bonne journée, bonne semaine. Alicia Despins, vous entendez sur nos ondes une fois par semaine en chronique en politique municipale. Je trouvais que c'est très important de parler concernant les vacances du maire Marchand. Dans un instant, Boulevard 101 à l'émission en jase, Rémi Villemur vient s'installer avec nous, notre chroniqueur qu'on a les mardis et jeudis. On va parler de cette candidature économique, cette première pour le PQ, et on va revenir sur ce scandale à Montréal, c'est-à-dire cet homme, Mohamed Bekadi, qui traite une policière de sale pute à plusieurs reprises. Rémi se pose la question, sont où nos féministes? Très bonne question de sa part. C'est à On en jase dans quelques instants.
Jase. Jusqu'à 14h, On en jase.
On en jase, son émission du midi d'actualité de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101. Le retour de Gravel va suivre de 14 à 18h. C'est avec Denis Audrey et Gab Marino pour cette semaine, car Véro Bergeron est en vacances. Par la suite, Marceau le soir et on recommence le matin avec Marceau le matin de 6 à 10. Le point de max avec Maxime Larouche de 10h à midi. 418-971-101, vous êtes plusieurs à interagir depuis le début de l'émission. Vous êtes contre les vacances du maire Marchand. Vous êtes content de la décision contre Gilbert Rozon. Continuez à interagir. 418-971-1021 BLVD.fm pour nous écouter via la web radio ou prendre nos meilleurs moments. Et n'oubliez pas de télécharger notre application Boulevard 101 sur App Store et Google Play Store. Avant de passer à Rémi Villemur et de revenir sur cet homme, Mohamed Bekadi, qui traite une policière de sale pute à plusieurs reprises, puis que sur ses médias sociaux, il a laissé transparaître que il y avait rien là, il n'y en a rien à foutre de son langage. Pascal, deuxième procès pour l'événement au sabre dans le Vieux-Québec.
C'est ce qu'on demande. L'attaque au sabre dans le Vieux-Québec à l'Halloween 2020, bien, c'est Carl Giroir qui va avoir droit à un nouveau procès. C'est la Cour d'appel qui a invalidé le verdict de culpabilité pour Giroir. Et on ordonne ce deuxième procès-là parce qu'on a conclu que le jury aurait dû être instruit sur le silence de l'accusé en interrogatoire. Ce sont les seules informations que j'ai en ce moment. Mais ça nous ramène dans des côtés très sombres de Québec.
Courage aux victimes, courage aux familles des victimes, des gens qui sont décédés.
880 000 $, c'est la somme que va devoir payer Gilbert Rozon à 8 des 9 femmes qui avaient entamé un procès civil contre l'ex-magnat de l'humour. C'est la juge Chantal Tremblay qui a cru la version de 8 des 9 femmes et ces femmes-là affirmaient avoir été agressées sexuellement par Gilbert Rozon, vous vous rappelez. C'est la fin d'un long processus judiciaire, ça aura duré près de 10 ans. Les plaignantes réclamaient 14 millions de dollars. Gilbert Rozon n'a pas voulu émettre de commentaires. Sinon, la Ville de Québec met fin à son programme d'aide aux commerçants dans Saint-Roch. C'est l'enveloppe disponible de 1 million de $ qui a été dépassée en moins d'un an. Le fonds spécial pour Saint-Roch a permis d'aider 19 entreprises dans leur projet de développement. Cependant, il est à noter que le taux d'occupation des locaux commerciaux, c'est stagné. Là. Ça demeure pratiquement inchangé. On est à 19 %.
Vraiment, on est à 17 % avant cette subvention-là. Donc, malheureusement, malgré cette intervention de la Ville de Québec-là, Saint-Roch continue de saigner. Merci à Mathias Turcotte qui nous a justement rapporté le tout. Et si vous voulez le joindre, citoyen commercial blvd.fm.
Et arrestation perquisition dans Sainte-Foy ce matin par les policiers de Québec, le GTI et différentes unités du SPVQ. C'est un homme de 58 ans qui a été arrêté pour trafic de stupéfiants, diverses infractions en lien avec les armes à feu. Jeff, il est détenu, il devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Québec. Ce qu'on a trouvé dans une résidence dans le secteur Jouvence à Sainte-Foy, c'est 3 armes à feu, une arbalète, une arme à air comprimée. Ça s'apparente à une arme à feu, là.
Ouais.
Plusieurs munitions. Environ 30 grammes de poudre blanche. Donc, on n'a pas encore
on peut encore tatoué tester
sur
marchandise.
La cocaïne. Dis-moi que environ 50 grammes de cannabis concentré, 4 cellulaires, divers objets à la revente de stupéfiants. Et j'aime mettre en lumière que c'est une perquisition parmi tant d'autres. Hein. Ça, ouais. C'est le genre de choses qu'on trouvait sur le territoire de Québec. Peut-être dans un voisin près de chez vous.
Exactement. Donc, soyez prudents, soyez à l'affût. On va rejoindre l'animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et le samedi matin, en compagnie de Jacinthe Varil de 8h à 10h. Rémi Villemur. Rémi, comment vas-tu?
Je vais bien, vous deux.
Ça va très, très, très bien. Rémi Mohamed Bekadi est cet homme qui a injurié à répétition une policière. La vidéo fait un tollé présentement dans les médias et sur les médias sociaux. Et là, on a appris qu'à Montréal, vous n'aviez pas de règlement pour intervenir contre Mohamed Bekadi. Il va commencer à être le temps que vous ayez des règlements. Mais avant ça, il commencerait à être le temps que nos féministes du Québec sortent et défendre cette policière, sont où? J'ai pas entendu Ruba Gazal, j'ai pas entendu Sophie Durocher, j'ai pas entendu le groupe féministe de l'Université Laval qui essayait d'arrêter la conférence de Alex Boissonneau, Étienne-Alexandre Beauregard et Benjamin Tremblay. Sont où ces féministes-là, Rémi?
Ben là, Sophie Durocher, je vais t'annoncer que tu vas la trouver quelque part. Si tu cherches juste un peu plus, elle en a parlé ouvertement. C'est peut-être la seule.
Parfait.
Puis deux choses, il s'appelle Mohamed Bekadi.
Bekadi, merci. Merci, je veux bien prononcer son nom. Bekadi, il faut que tout le monde se souvienne de Mohamed Bekadi, ce charognard.
Ouais. C'est pour ça que je le précise. Sophie Durocher, elle en a parlé hier, parce qu'à chaque fois que ça arrive des affaires comme ça, elle se compte sur les doigts d'une main, les femmes qui osent dénoncer. Ce qui est compliqué quand vous êtes plus à gauche à dénoncer, parce qu'on le sait depuis quelques années, il y a cette nouvelle façon de réfléchir qui est l'intersectionnalité. Donc, on ne veut pas critiquer quelqu'un qui est issu de l'immigration parce que c'est une minorité. Donc, quand c'est un blanc et que c'est un homme, là, on fonce là-dedans. Mais quand c'est un homme issu de l'immigration, ben là, on tait. Et je veux dire, je ne veux pas qu'on m'accuse d'être
complotiste. Fait que là, Rémi, tu es en train de me dire que tous les auditeurs qui nous ont texté au 418-971-1021 puis qui m'ont dit « Jeff, c'est parce que l'homme n'est pas blanc » puis que je me disais « Voyons, il exagère. » Colin, il n'exagère pas.
Ben, hier, moi, j'ai parlé avec des policiers, j'ai voulu me faire une tête, d'accord? C'est une posture, je pense, que je trouve plus sage que les autres. Là, on se fait une tête, on s'adresse aux gens qui sont sur le terrain. Vous avez peut-être reçu des anciens policiers à Boulevard également hier. Et moi, je partais du principe que ça arrive souvent et que c'est toutes sortes de gens, dans toutes sortes de contextes, de tous âges, qui prononcent des commentaires comme ça. Moi, j'ai mis les cartes sur la table, puis j'ai dit à l'ancien policier à qui j'ai parlé en l'occurrence, est-ce que je procède bien intellectuellement? Et lui aussi ne voulait pas faire d'amalgame, mais il était obligé de reconnaître que ce type de langage-là, de cette façon-là, c'est une certaine communauté à Montréal certains membres d'une certaine communauté, pour être encore plus précis, qui se permettent de faire ça. La raison pour laquelle je vous en parle, et je le précise, c'est délicat. C'est parce qu'on ne peut pas régler des problèmes si on ne met pas toutes les causes sur la table. Combien de fois je suis venu vous dire ça? Quand on décide de nommer un faux coupable, ben on rassure certaines personnes, la poussière retombe, et savez-vous quoi? Le problème revient. Hier, Fadi Daguerre qui dit que c'est le masculinisme, là, ça n'a aucun bon sens comme explication. Le masculinisme, là, quand on demande aux gens de nous définir c'est quoi, on nous dit que c'est des jeunes de plus en plus conservateurs. Depuis quand les jeunes de plus en plus conservateurs parlent à la police de cette façon-là? C'est pas... Quand vous êtes conservateur et traditionnaliste et traditionnel, vous ne parlez pas à la police comme ça, vous respectez la police, vous respectez l'armée, vous respectez l'autorité. C'est incohérent de mettre ça sur le dos du masculinisme. Mais Fadi Daguerre, lui aussi, est issu de l'immigration et lui, il est dans une ville où à peu près 40% de la ville est issu d'une minorité. Alors, je le comprends, c'est une position difficile, mais à adopter une mauvaise position, on n'obtient pas des résultats. Il y a quelque chose d'inexact là-dedans. Et ce sont des anciens policiers qui le disent. On ne se sent pas respecté. Fadi Daguerre, quand il est question de racisme dans son corps, c'est-à-dire quand il y a des policiers racistes, « Ah, là, il est là. Ah, là, il est là, là, il est là. Il est en avant de la scène, puis il dit « racisme systémique dans la police, on est des racistes. » Il faut régler des problèmes. Mais quand c'est question de certaines communautés qui s'en prennent à des femmes comme ça, là, par contre, on tourne en rond, on trouve des affaires. Ouais, comment on va faire pour maquiller ça de la bonne façon? Masculinisme, tiens. Personne ne le prend au sérieux.
Pourquoi on a si peur que ça de nommer les choses, Rémi, comme l'ex-policier te l'a nommé, c'est-à-dire que ce comportement-là vient en majorité d'une minorité de personnes qui sont issues de l'immigration?
Ben, parce qu'on peut se faire taxer de racisme.
Moi, simplement.
C'est déjà suffisamment, je pense, un gros risque à courir. Mais voilà, c'est la vie, ça reste que c'est ça qu'on nous rapporte. Et je précise que les policiers, moi j'ai essayé d'en avoir quelques-uns à l'antenne, des patrouilleurs qui travaillent en ce moment à Montréal, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ce sont des anciens policiers qui parlent. Je le précise parce que des fois, les gens disent, bon, ben là, vous parlez juste à des anciens policiers, vous ne parlez pas à des policiers. Ben, les policiers, ils aimeraient parler. Moi, ils me textent. Puis moi, ils me disent que ce qu'on dit dans les médias, ce n'est pas assez intense. Puis eux autres sont sur le terrain, dans les quartiers. Ils savent qu'ils parlent comme ça aux femmes. Ils savent qu'ils parlent comme ça aux policiers. Ils savent qu'ils, comme ça, sortent les téléphones pour humilier des policiers puis les traiter de mots qui sont pas dans notre vocabulaire très canadien-français. On va être honnête, là. Hein, je veux dire, sale, je ne vais pas les répéter, là, mais ces affaires-là, on ne dit pas vraiment ça, nous autres. Donc, ayons pas peur de le dire. Ça prend du courage, mais ce n'est qu'en disant les choses telles qu'elles le sont qu'on peut véritablement régler des problèmes. Sinon, on est hypocrite. Et j'ai fait mes vérifications, mes chers amis. Là. Je ne suis pas en train de sortir ça de mon chapeau. Ruba Gazal n'a rien dit. Le Conseil de la Fédération des femmes du Québec n'a rien dit aussi. C'est drôle parce qu'ils sont là pour parler de violence genrée dans les jeux vidéo, de violence dans les chambres de hockey, mais quand on a une vidéo, une preuve, là, pas une théorie pas un espèce de raisonnement croisé, une preuve vidéo, en plus avec le témoignage de quelqu'un qui ne s'excuse pas et qui referait la même affaire demain matin, là, c'est silence radio. Alors moi, je regrette, mais je prends de moins en moins au sérieux ces acteurs de l'espace public.
Non, je suis d'accord. Puis en même temps, si les policiers de Montréal avaient l'autorité de parler et qu'ils parleraient, qu'ils diraient c'est issu de gens qui proviennent de l'immigration, ben ils se feraient encercler leur voiture de police et ils se feraient intimider.
Mais en fait, Jeff, c'est déjà ce qui se produit. Regardez les vidéos qui sont sorties de ce jeune homme-là, Mohamed Bekali. À chaque fois qu'il est en train de filmer un policier ou une policière, moi j'en ai vu trois vidéos différentes. Ça part de la même façon. Il est intercepté parce qu'il a enfreint un code, soit de la route ou enfreint un règlement. Donc lui, il dit, je vis du profilage racial. Mais comment ça peut être du profilage racial si on t'arrête parce que tu as excédé la vitesse permise, tes vitres sont teintées, tes papiers sont pas en règle. C'est pas du profilage racial, tu
Non.
commets un crime, tu es arrêté.
C'est comme une
Donc,
infraction.
et les policiers vont pas plus loin parce qu'ils savent qu'ils vont être accusés de faire du profilage. Leur chef est même pas avec eux. C'est leur chef, c'est censé être leur père, c'est le papa de la famille. Il est même pas avec eux. Il les traite de racistes sur l'espace public. Au lieu de dire, écoutez, on a un défi dans certains quartiers, mettez ça sur le dos de la pauvreté, mettez ça sur le dos de l'exclusion sociale, ça serait déjà le début de dire quelque chose. Il n'est pas obligé d'aller aussi loin que certains vont. Il faut juste qu'ils disent la vérité. Dans certains quartiers, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration et d'une certaine immigration qui ne respectent pas l'autorité des policiers. Ils rappent là-dessus, ils s'en vantent. C'est un discours qui est répandu. Et on le remarque même chez les jeunes. J'ai enseigné dans des écoles où les jeunes de 12, 13, 14 ans détestent la police. C'est relativement nouveau. Je regrette. Moi, quand j'allais à l'école, on ne détestait pas la police à 12 ans, là.
Non, du tout. Puis moi-même, j'ai été coordonnateur dans des centres de loisirs où les policiers venaient justement faire des activités avec les jeunes pour faire de la prévention avec eux. Puis les jeunes les accueillaient à bras ouverts. Rémi, c'est un sujet qu'on va continuer à parler, c'est certain, parce que ça va continuer à faire la manchette avec le mauvais comportement de cet individu, Mohamed Bekali, qui continue justement à empoisonner ces médias sociaux de vidéos les plus irrespectueuses les unes des autres. On se parle jeudi, mon ami.
Bye-bye.
Salut Rémi Villemur, on se parle jeudi. Rémi Villemur qui est avec nous mardi et jeudi à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Il est animateur également au 99.5 Montréal. Pascal, après la pause, on va avoir une entrevue très touchante. Est-ce que tu veux nous la présenter, s'il vous plaît?
Bien, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est arrivé, mais c'est une autre histoire absolument atroce par rapport à des parents implorés. Pourquoi? Bien, parce que le dit Red Bull, là, les boissons énergisantes, là, on s'entend que c'est super populaire. Mais ça amène des histoires dramatiques chez certains enfants parce qu'il ne faut pas faire de négligence avec ces boissons énergisantes-là. Puis on va parler avec David Miron et Véronica Martinez, qui sont parents de Zachary, qui est décédé après avoir ingéré du Red Bull. C'est un combat qu'ils mènent. Ils tentent le plus possible de le faire parvenir à l'Assemblée nationale. Entre autres, demain, ils jasent avec Sonia Bélanger, ministre de la Santé.
Donc, immédiatement, dans quelques instants, à Boulevard 102.1, on parle avec ses deux parents éplorés à l'émission On en jase.
Bergement-Rivenard.com.
La vente étiquette rouge est de retour.
profiter du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Aux Immeubles Roussin, on construit pour durer. Et ça commence avec notre équipe. Deux postes clés à combler, technicien comptable senior et conseiller principal en développement et location commerciale. Une carrière solide vous attend. Postulez au immeubleroussin.com.
J'ai vu ton historique sur Internet.
Ah, je peux expliquer.
T'es accro?
Ben, c'est ce que...
Gars, fais-toi-en pas. Moi aussi. Check les offres cette semaine sur Mercado.fm.
Obtenez une demande de pardon d'une valeur de 1 000 $ pour 500 $ chez Identité Québec et un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Attitude Hélicoptère.
Oh oui, c'est ça que je disais. Mercado.
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Le Salon du VR de Québec est de retour et plus grand que jamais. Du 9 au 12 avril, au Centre de foire d'Exposité, venez découvrir plus de 200 roulottes et véhicules motorisés 2026. Plus d'une centaine d'exposants, pièces, accessoires, conférences gratuites et les dernières tendances de l'industrie. Roulez, explorez, profitez. Achetez vos billets sur salonduvr.com. Planifiez votre prochaine escapade au Salon du VR de Québec, présenté par Orbit Service d'assurance.
La météo, présentée par Cro-Mignon sur la 3e avenue à Limoilou. Pour votre festin de Pâques, faites vos provisions de produits maison au Cro-Mignon. Cro-Mignon.com.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission On en jase, 13h28. Je vous le rappelle, à la météo, c'est des journées de nuages qui s'en viennent sur Québec. Aujourd'hui, c'est généralement nuageux à 0 degré. Possibilité de neige mêlée de grisille ce soir. Durant la nuit, il va faire moins 8 degrés. Le mercure franchit la barre du zéro à 2 degrés demain, mercredi 1er avril. C'est nuageux. 2 degrés nuageux aussi pour jeudi. 3 degrés avec de la neige ou de la pluie pour vendredi.
Jeff, je ne sais pas si tu as vu la chronique de Patrick Lagacé dans La Presse ce matin.
Oui, je l'ai lu. Je l'ai vu, je connaissais déjà l'histoire parce que ça l'avait sorti dans les médias au moment, malheureusement, là, du décès du jeune Zachary.
Tu sais, on revient là-dessus parce qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer. Il y a une rencontre entre les parents qui ont perdu leur gars, Zachary Miron, 15 ans, mm-hmm. quand il a bu une seule canette de Red Bull, mais c'était combiné à un médicament pour le TDAH. Il était dans une sortie scolaire de ski et ils sont, on le sait, ébranlés par la tragédie. Puis pour eux, c'est un devoir d'aller plus loin dans la situation. Ils ont un peu l'impression que c'est négligé au niveau de la santé, les répercussions, les conséquences de ce genre de boisson-là.
Ah oui, ça fait énormément de temps qu'on voit des adolescents abuser de ces boissons énergétiques. Là. Je travaillais au Patro Laval, j'avais 22 ans, puis je voyais les ados prendre l'argent normalement qu'ils devaient avoir pour leur lunch pour s'acheter des Red Bull et des Monsters de ce monde. Et là, bien, on va avoir Pascal, David Miron et Véronica Martinez, les parents justement du jeune Zachary qui est malheureusement décédé à l'âge de 15 ans. Merci beaucoup d'être avec nous à l'émission On en jase pour nous parler justement de la situation que vous vivez.
Merci à vous pour la tribune.
Ça fait plaisir. Monsieur Miron, je commencerai avec vous. Pourquoi, justement, livrer ce combat?
Bien, parce qu'on pense que ce serait vraiment important d'encadrer la vente de ces boissons-là afin de les interdire aux enfants de 16 ans et moins. On sait que ça a des impacts sur leur santé, C'est un peu une crise de santé publique qu'on voit par rapport à tout ce qui est fait, tous les achats qui sont faits sur ces boissons-là. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement prenne position puis qu'il légifère pour les 16 ans et moins.
Il y a des questions qui se posent en société sur la possibilité d'en boire autant. On dirait qu'on est un peu arriéré, comme avec la vapoteuse, qu'on commence à avoir plus d'informations sur les conséquences autour de la jeunesse. Vous, vous avez vécu les conséquences de la manière la plus tragique qui soit. Est-ce qu'auparavant, c'était des discussions que vous aviez avec votre cher Zachary?
Oui, tout à fait. Par rapport à notre état de conscience, on savait que c'était des boissons qui contenaient de la caféine. Puis, dans leur adolescence, ben, on les interdisait d'en consommer. Mais on ne connaissait pas l'impact que ça pouvait avoir avec la médication du Bifantin.
Parce que dans les faits, malheureusement, Zachary est décédé de ce mix-là, justement, boissons énergisantes et médicaments qu'il prenait pour contrer son TDAH, c'est bien ça?
Exactement. Le rapport du coroner a été très clair là-dessus. Son cœur était en parfaite santé, sa santé en général était nickel. Donc, c'est vraiment l'interaction entre les deux qui a créé une arythmie cardiaque maligne.
Madame Martinez, parlez-nous de Zachary, quel adolescent il était, comment il vivait, c'était quoi ses passions, ses loisirs?
Zachary, c'est un garçon très porté sur le sport, très sportif. Il adorait la nature, il adorait la planche à neige, il adorait les Laurentides. C'est un garçon rassembleur. Vraiment, là, le portrait typique là, de... Bon, il était pas parfait, là, notre beau Zach, là, mais franchement, là, c'était vraiment là, un garçon vraiment formidable. Là.
En tant que maman, c'est sûr, en tant que papa aussi, c'est super émotif comme sujet. Mais Mme Martinez, là, demain, vous allez vous entretenir avec la ministre de la Santé. Ça a pris combien de temps à réussir à avoir ce rendez-vous-là? Y a-t-il fallu que vous déplaciez des montagnes? Puis encore là, vous attendez à quoi de la part du gouvernement provincial?
Là, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. On avait, on a toujours là, l'appui du député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, là, Guillaume Clich-Rivard. C'est lui qui a organisé cette rencontre-là. Rencontre super importante. On s'attend à quoi? Ben, on s'attend qu'il y ait des choses qui changent. Dans le fond, nous, ce qu'on demande, là, je ne sais pas si... si vous avez regardé le reportage ce matin, là, l'article de Patrick Lagacé, là, donc depuis 2023, là, il y a un rapport qui avait été demandé par le gouvernement. Donc, il y avait un comité consultatif qui avait été mis sur place pour justement voir ça, là, ce qui se passait avec les boissons énergisantes. Puis, il y a plein de bonnes recommandations qui sont sorties de ce rapport-là, notamment celui d'interdire la vente des boissons énergisantes aux mineurs. Ça, c'est 2023. Mon fils est décédé en janvier 2024. Donc, pour moi, si les choses avaient bougé, s'il y avait eu un courage politique, ben je ne sais pas, là, mais ce 12 janvier-là, ben probablement qu'il aurait été différent pour nous tous.
Oui, c'est ça. Donc, autrement dit, ces recommandations-là qui ont été tablettées, comme trop souvent elles le sont, ben si on les avait appliquées, ça aurait pu sauver la vie de votre fils.
Exactement. Puis d'autres, on parle de mon garçon, puis l'interaction avec sa médication. Là. Il a pris sa médication à 6h le matin, il a pris son Red Bull vers 8h30 le soir. C'est
un écart aussi grand, j'avais pas cette donnée-là. Oui, mais...
oui c'est ça. J'ai comme l'impression, parfois on a l'impression qu'il a pris sa médication et qu'il a Red Bull absolument pas. Il a pris sa médication avant d'aller à l'école, 6h le matin. Le soir, il est en sortie scolaire, 8h30 avant la dernière descente, il a calé... une canne de Red Bull. Son cœur s'est arrêté. C'était pas un consommateur régulier, étant donné que nous, c'était interdit à la maison. C'est comme mon conjoint l'a mentionné. Il a été avisé sur ça, sauf que il faut être cohérent aussi, dans le sens que nous, on lui dit que c'est pas bon pour lui, que c'est pas fait pour lui, mais on a ça dans les dépanneurs. Mm-hmm. On a ça dans les distributrices, c'est pas ouais. cohérent.
Non, c'est ça, contrairement, puis là, je vais prendre les deux exemples les plus frappants, contrairement, par exemple, à la cigarette ou contrairement à l'alcool où c'est 18 ans et plus, puis tu vas être carté si tu te rends dans un dépanneur.
Exact.
Monsieur Miron,
Oui.
Quel effet ça vous fait de savoir qu'il y a d'autres Zachary qui présentement sont en danger? Parce qu'il y en a d'autres garçons présentement qui prennent la médication pour du TDAH et je suis certain qui, à l'insu de leurs parents, vont consommer des boissons énergisantes.
Oui, il y a ce volet-là, mais c'est un volet aussi qui touche même les enfants qui ne prennent pas de médication pour le TDAH. Ces boissons-là, ils ont une dose de caféine à l'intérieur, puis c'est fortement non recommandé pour un enfant de consommer des produits caféinés, puisque leur métabolisme le digère beaucoup plus lentement qu'un adulte. Donc, c'est pas fait pour eux. C'est pas fait pour eux. Il n'y a personne qui donne des cafés à ses enfants, tu sais.
Maintenant, vous rencontrez la ministre Sonia Bélanger demain. Vos espoirs par rapport à cette rencontre et aux actions qui seront posées par le gouvernement à la suite de cette rencontre?
Bon, on espère que la ministre Bélanger va prendre position puis va prendre des actions en rapport avec, avec leur rapport qu'ils ont produit, puisqu'il y a des recommandations à l'intérieur qui vont dans le même sens que nous. Donc, on espère qu'elle va prendre action.
Et en terminant l'entrevue, quels sont... Je vous dirais, est-ce que vous faites une démarche auprès du gouvernement? Je salue votre démarche. Vous êtes très courageux de le faire au nom de votre fils. Tout à l'heure, votre conjointe en parlait, Mme Martinez, du fait que si la réglementation avait existé, peut-être mon Zachary sera encore en vie. C'est quoi les sentiments qui vous habitent?
Bien, évidemment... C'est des sentiments de deuil. En ce moment, on met quand même notre deuil de côté pour faire essayer d'avancer les choses. On pense que notre cause est pleine de bon sens. On pense aussi à la protection de nos enfants ici au Québec, puisqu'on sait qu'il y a deux fois plus de prescriptions ici pour le TDAH que le reste du Canada. Donc, je pense qu'il y a un enjeu social ici. Puis que je pense qu'il faut faire attention à notre jeunesse. Puis ça, c'est une façon simple d'arriver à les protéger.
Monsieur Miron, Madame Martinez, félicitations pour la démarche que vous faites auprès de nos instances gouvernementales. On est de tout cœur avec vous. Tenez-nous au courant de la démarche. On veut vous redonner la possibilité de venir parler sur les ondes de Boulevard 102.1 parce qu'il faut vraiment faire bouger les choses à la lumière de ce que vous avez vécu avec votre jeune Zachary.
Merci.
On vous remercie beaucoup. Puis on souligne aussi qu'il y a la pétition qu'on peut signer sur le site de l'Assemblée nationale.
Excellent. On va envoyer les gens. Justement, c'est directement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, allez signer cette pétition en grand nombre. Merci infiniment. Dans un court instant, Boulevard 102.1, on va parler d'un reportage de Ricardo concernant justement les écoles qui sont désuètes, qui sont vétustes à l'heure actuelle. C'est un reportage que tu as écouté hier, Pascal, et qui t'a vraiment alarmé.
Bien, je pense que c'est plusieurs personnes qui ont été alarmées par École sous pression avec Ricardo, qui a décidé de faire un genre de continuité dans les Lab Écoles avec Pierre Lavoie, entre autres, avec qui il avait travaillé, avec un architecte. Ça a été diffusé hier, rediffusion ce soir, RDI, toujours disponible sur tout.tv. Il y a la capitale nationale qui rayonne pas nécessairement. On sait qu'on a un besoin criant d'infrastructures ici, sinon on en a des désuètes. Et j'ai fait mon enquête suite à ce documentaire-là qui a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada hier, entre autres avec André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Je vous en parle après la pause.
Excellent. On parle de ça, puis on va faire un petit tour rapide d'actualité. Merci beaucoup d'être sur les ondes de Boulevard 102.1 et merci au 418-971-102.1 pour vos messages de soutien envers les parents du jeune Zachary. Oh oui, on jase d'actualité locale, on jase d'actualité provinciale. Vous l'avez vu, si vous êtes à l'écoute de l'émission depuis le début, c'est exactement ce qu'on fait. On a parlé des vacances de Bruno Marchand et Calicia Despins. On vient de parler d'un dossier très important sur les boissons énergisantes pour les jeunes avec deux parents éplorés. Et là, on va s'apprêter à parler de nos écoles, nos infrastructures. Ça craque de partout au Québec, mm-hmm. mais surtout pour nos écoles, avec un documentaire que Pascal a écouté hier, un documentaire mettant en vedette Ricardo.
Tu sais quand ça prend Ricardo, là, le gars de l'empire de la cuisine, ouais. pour faire réagir au niveau éducation, on a peut-être un problème.
Oui, c'est ça qui fait un peu péter. Ça devrait être plutôt les enseignants et les directions d'école qui fassent réagir. Mais bon, gouvernement écoute les vedettes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais avant ça, Pascal, un résumé de tout ce qui brasse dans cette actualité florissante aujourd'hui.
As-tu 4
heures? Ce mardi 31 mars.
T'as pas 4 heures, hein?
On va pratiquer ton...
On va faire un résumé d'un résumé. Donc, c'est 880 000 $, c'est la somme que va devoir payer Gilbert Rozon à 8 des 9 femmes qui avaient entamé un procès civil contre l'ex-magnat de l'humour. C'est la juge Chantal Tremblay qui a cru la version et davantage celle des 8 des 9 femmes qui affirmaient avoir été agressées sexuellement. Les plaignantes réclamaient 14 000 $. Vous comprenez que c'est beaucoup moins ce qu'elles récoltent. Et Gilbert Rozon n'a pas voulu faire de commentaires aujourd'hui. Attaque au sable dans le Vieux-Québec à l'Halloween 2020. Carl Giroir va avoir droit à un nouveau procès. Pourquoi? Bien parce que la Cour d'appel invalide le verdict de culpabilité. On ordonne un deuxième procès en concluant que le jury aurait dû être instruit sur le silence de l'accusé en interrogatoire. On n'aura plus de détails à venir. C'est assez frais. Également dans l'actualité, la Ville de Québec met fin à son programme d'aide aux commerçants dans Saint-Roch. L'enveloppe disponible de 1 000 000 $ a été dépassée en moins d'un an. Le fonds spécial pour Saint-Roch, c'est 19 entreprises qui ont pu en profiter dans ce projet de développement-là. Par contre, il est à noter, et on le fait dans le soleil, que les locaux commerciaux sur la rue Saint-Joseph demeurent pratiquement inchangés en termes de taux d'occupation. Là, on est toujours autour de 19 %. C'est l'endroit où c'est le plus élevé au terme d'artère commerciale dans la ville de Québec. Le taux d'occupation extrêmement élevé là, pour la situation. Arrestation perquisition dans Sainte-Foy. C'est un homme de 58 ans qui a été arrêté pour trafic de stupéfiants, diverses infractions aussi en lien avec armes à feu. Il devrait comparaître cet après-midi au palais de justice. C'est dans une résidence du secteur Jouvence que ça s'est produit ce matin. Beaucoup d'armes saisies, de la drogue également, des cellulaires et d'autres objets liés à ce genre de vente de stupéfiants. Et je dois dire qu'il y a un accident particulier qui s'est produit ce matin. Donc, automobiliste qui s'est retrouvé coincé sous son propre véhicule après une fausse manœuvre. C'était à la borne de péage du stationnement de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ce matin. Donc, les policiers ont intervenu à 10h10. Il y a eu des manœuvres sur la femme qui ont été réalisées parce qu'elle se trouvait coincée sous son propre véhicule, là. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle aurait ouvert la portière pour accéder à la borne de péage. Elle serait tombée au sol et l'embrayage de son véhicule n'avait pas été mis sur stationnement. Donc, ça lui a roulé dessus. C'est une octogénaire. Elle a été transportée dans un centre hospitalier. On a des blessures importantes.
Je vous invite à aller au patrolapin.com. Pourquoi? Parce que c'est Pâques en fin de semaine. Puis vos enfants, votre chum, votre blonde, vos parents, ils veulent déguster les excellents patrolapins. C'est pour passer votre commande. C'est au patrolapin.com. Offrez le bonheur à tous. Et en plus, ben, faites profiter du patro au patro. Votre somme pour le patro lapin, ça va servir à offrir plus de sport, de loisirs et d'entraide dans les centres communautaires de votre quartier. Et il y a même 5 000 $ à gagner. École sous pression, Pascal CV, c'est le documentaire de Ricardo. Puis là, ben, quand je regarde ça, il n'est pas marqué cuisine sous pression. Non. Donc ça veut dire que Ricardo s'est intéressé à autre chose que ses couteaux.
Oui, puis c'est vraiment lui qui a demandé à faire un reportage, un documentaire là-dessus. Ça va un peu faire écho avec tout le projet de Lab École. Il y en a certaines qui ont vu le jour, hein, au Québec, mais très peu. C'était des écoles qui étaient uniquement concentrées dans leur construction au bien-être des enfants. On ne prenait pas en considération ce que les adultes aimeraient, puis le budget, puis etc. Ça a été diffusé hier et ce sera en rediffusion ce soir 20h sur RDI et toujours disponible sur tout.tv. J'ai parlé à deux personnes ce matin, deux intervenants. D'abord, Julie Paquin, qui est productrice du documentaire, et aussi André Bernier, qui est président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école et qui est basée dans la capitale nationale. Ce qui a frappé la production dans ce documentaire, c'est davantage la complexité de l'enjeu. Hein. Il n'y a pas de réponse simple. Il voulait lever le voile sur le manque d'entretien, de maintien, hein, le manque d'espace et ces espaces-là qui sont mésadaptés aux besoins d'aujourd'hui et de la pédagogie contemporaine. Ce qui frappe, c'est qu'on dirait qu'on est dans un genre de cul-de-sac face à ces enjeux. On peut écouter Julie Paquin, productrice.
En résumé, le milieu de l'éducation connaît les solutions pour résorber le déficit du maintien d'actifs des bâtiments, des écoles au Québec pour régler l'enjeu du manque d'espace. On les connaît, les solutions. Maintenant, ce qu'on nous répond, Mme Sonia Lebel, notre ministre de l'Éducation en place en ce moment, et Mme Michèle Courchain, ancienne ministre de l'Éducation, ça allait être difficile de répondre à la demande du milieu qui était celui d'avoir plus de prévisibilité. Pour l'instant, les centres de services scolaires connaissent très tardivement l'argent dont ils vont disposer pour rénover leur parc immobilier, si on peut dire. Si on veut, en bon québécois, stripper notre cuisine, ben on va pas prévoir ça 2 mois d'avance, 3 mois d'avance, même 6 mois d'avance. Là, on va y penser, on va se faire des plans, on va ramasser de l'argent. Fait qu'imaginez, là, c'est exponentiel dans le réseau. Fait que ça avait pas l'air possible. Fait qu'effectivement, on se dit, mon Dieu, comment on va y arriver? Mais je pense qu'il faut se dire qu'on est capable de changer les règles existantes, puis peut-être que collectivement, on est capable de se dire que cette réponse-là, ben on l'accepte pas, puis on va changer ça. Il n'y a rien d'impossible.
C'est clair que si on écoutait les gens sur le terrain, ça irait mieux, mais ça, le gouvernement le fait jamais.
Oui, puis on se rend compte, c'est qu'il y en a qui peuvent parler, d'autres moins, on en reparlera de ça, mais ils ont parcouru le Québec, du moins là où on a décidé de répondre présent aux invitations de la production. Puis à Québec, qu'est-ce qui a été mis en lumière? Elle parle entre autres de sa rencontre avec Marie-Claude Asselin, qui est directrice générale du Centre de services scolaires, Centre des Premières Seigneuries. On la remercie, c'en est une qui a énormément parlé dans le documentaire. Voici la situation par Julie Paquin, productrice.
C'est d'abord l'enjeu d'espace. Donc, il y a une surpopulation d'élèves à Québec. Il y a plusieurs demandes d'ajout d'espace, donc ça veut dire de nouvelles écoles qui ont été faites et qui n'ont pas toutes été acceptées. Donc, c'est la loi au Québec, hein, quand on a un élève full scolarisé, full placé. On savait que l'enjeu du manque d'espace à Québec est important. C'est ce qui nous avait amené là-bas. On n'avait pas les chiffres en main, donc c'est sûr qu'on a été étonnés d'apprendre qu'il manquait sur un horizon de 10 ans, 3 000 places au secondaire, 3 000 places au primaire.
Oui, puis aux premières seigneuries, là, je m'excuse de t'interrompre, mais on a construit une nouvelle école sur les anciens terrains du zoo, on a mis des modulaires l'année d'après. Fait que pour montrer comment qu'on n'est pas capable de prévoir du côté du ministère de l'Éducation.
Elle était pleine après 2 ans, imaginez.
C'est
là.
Ça, c'est un exemple concret.
Puis c'est une super belle école en passant. On est allé la visiter du côté de la production puis du documentaire. Mais même son de cloche pour un acteur de l'éducation qui a les deux pieds dedans. Et c'est là qu'André Bernier entre en ligne de compte dans les clips que je vous présente. C'est le président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. C'est pas une surprise pour lui, sauf pour...
Par contre, il y a certaines des réponses qui ont été données là, qui m'ont grandement surpris par rapport au financement puis le fait que dans plusieurs centres de services, là, il manque de place et encore plus que je croyais.
Et chose importante aussi qui ressort de ma conversation avec la productrice du documentaire, c'est l'étanchéité de ce qui est dit.
Alors qu'on sait que le personnel du réseau de l'éducation se sent muselé. Je ne dis pas qu'il l'est, hein, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, mais assurément, le personnel du milieu de l'éducation se sent muselé. Alors, il faut lever notre chapeau à ceux qui ont choisi de nous ouvrir les portes de leur milieu, de nous parler de leur réalité. Puis à Québec, au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, directrice d'école au Saguenay aussi, Virginie Allan, pilote. Donc, tu sais, ce sont des femmes qui ont accepté de peut-être, disons, d'aller à contre-courant puis de dire, ben nous, on n'a rien à cacher, on gère comme du mieux qu'on peut avec les ressources dont on dispose et voici la réalité.
Personne ne devrait se sentir muselé au Québec. Puis malheureusement, que ce soit dans les organisations syndicales ou même avec le gouvernement, on va plus chercher à punir le lanceur d'alerte qu'à punir ceux qui font en sorte qu'à l'heure actuelle, il y ait des déficiences comme ça dans nos infrastructures.
Pour beaucoup d'enseignants que j'ai consultés hier, là, je dois être autour de 6-7 à qui j'ai parlé. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils ont appris des choses aussi en termes de combien de manque au niveau des locaux on va avoir dans les 10 prochaines années. Pour M. Bernier, le documentaire illustre bien une problématique écriante. On sent aussi, c'est le terme qu'on utilise beaucoup là, dans le documentaire, mais dans un cul-de-sac.
Les premières seigneuries sont en démarche déjà depuis plusieurs années et ne reçoivent pas de réponse ou les réponses tardent, s'étirent parce qu'ils sont en démarche. Il faut, faut que ça peut pas juste être des modulaires, parce que finalement, les modulaires vont se retrouver plus grosses que les écoles. Là. On s'entend que 3000 élèves au secondaire, c'est une très, très grosse école secondaire. Puis 3000 au primaire, là, c'est à peu près l'équivalent de 5 assez grosses écoles primaires. Là. Il y a des constructions qu'il faut qu'ils soient faites et rapidement, mais les problèmes, c'est qu'il n'y a plus de terrain. C'est très difficile de trouver des terrains avec les villes pour que ça fonctionne. Et c'est très difficile. On ne réussit pas à avoir le financement du ministère.
Oui, puis aussi la problématique avec les modulaires, c'est même si maintenant on aménage certaines parties de gymnase ou de cafétéria, reste que les espaces communs qui doivent être partagés par l'ensemble des élèves. Dans une école, ben, ça a été prévu pour exemple 1500 élèves, mais là, avec les modulaires, on est à 2200, donc les espaces communs ne sont pas assez grands.
Mais le trop plein d'élèves dans les établissements amène beaucoup plus de problématiques qu'on pense, là.
C'est pas pour rien non plus qu'il y a autant de violence. Il y a tellement de promiscuité dans les écoles à cause que les élèves, il y en a trop dans les écoles, puis il n'y a plus de place, que ça s'ajoute à ça. Mais je pense que la structure de fonctionnement pour le ministère, pour accorder des permis de construction, il y a quelque chose à revoir. Moi, j'entendais la ministre dans le reportage dire hier que le ministère ne peut pas se prévoir, le gouvernement ne peut pas se prévoir sur plusieurs années. C'est insensé d'entendre quelque chose comme ça. C'est comme si on se disait, ben non, on va se gérer seulement à l'année pour des besoins en infrastructure qui sont majeurs. Si le fonctionnement du financement ne fonctionne pas, ben qu'il le change, qu'il l'ajuste pour répondre aux besoins à long terme des organisations là, gouvernementales.
Je ne sais pas si au 88-971-1021, vous pouvez nous parler des locaux que vous trouvez en décrépitude dans les écoles de vos enfants. Avez-vous des exemples? Mais le retard est tellement grand au niveau de l'investissement, Jeff, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est un retard de 25 milliards de dollars dans le réseau.
Aïe, aïe, aïe.
Coupure cette année. On ne peut pas utiliser le surplus du centre de service. Tout le monde construit en même temps. Les coûts vont augmenter. On connaît l'offre et la demande. Il faudrait un changement au niveau du financement au sein du gouvernement. Ce serait déjà un premier pas, on dit, pour une planification à long terme. Mais à quoi vont ressembler les prochaines années à Québec en éducation? On va agrandir par en dedans, il va manquer de personnel, pénurie, pas d'espace. La situation à Montréal sur le personnel non légalement qualifié, bien, c'est rendu ici à Québec aussi. Puis on a fait des modulaires qu'on disait temporaires pour des sommes extravagantes au lieu de construire des écoles.
J'ai vu la face de M. Thibault hier là, quand il a entendu le montant là, qui a été nommé là, de 400 millions. Puis j'avais probablement le même visage que lui là, à ce moment-là. C'est épouvantable. Et ça, c'est pas dû au centre de service, parce que dans le centre de service où j'étais, il y en avait une planification à long terme pour dire voici notre effectif, voici la clientèle à venir pour dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vers là qu'on s'en va. Et on était déjà en demande auprès du ministère pour avoir des constructions d'écoles, mais c'est le ministère qui ne répondait pas présent pour ces constructions-là et qu'on se retrouve à devoir faire à dernière minute des modulaires pour répondre aux besoins, parce qu'il faut les asseoir à quelque part, ces enfants-là. Donc, oui, c'est quelque chose qui n'a aucun sens d'entendre ça. Quand je suis à peu près sûr que la grande majorité des centres de services ont bien analysé, ont bien étudié ça, ont fait leurs demandes, mais qui se les sont fait refuser ou qui n'ont pas eu de réponse, tout simplement. Donc, tu sais, quand on dit qu'il y a quelque chose au niveau gouvernemental à modifier, clairement, là, il y a un point de rupture qu'on vient d'atteindre, selon moi.
Quand ça va bien. Hein. Merci beaucoup à Ricardo qui s'est penché là-dessus. On apprenait même, quand on travaille au sein même de tout ce qui est éducation, plein d'informations. C'est en rediffusion ce soir, 20h sur RDI, et disponible sur tout.tv, École sous pression.
Merci beaucoup, Pascal Cévé. Un excellent dossier. Honnêtement, nos écoles font pitié. C'est pas de la faute des gens qui travaillent sur le terrain, mais bien d'une mauvaise planification gouvernementale. Le temps de vous dire que le Canadien visite le Lightning de Tampa Bay ce soir, 19h. C'est sur les ondes d'RDS avec l'ami Pierre Houde. Le retour de Gravel s'en vient avec Denis Véro. Non, pas Véro. Denis Audrey et Gab Marino. Et nous, on se reparle demain à midi. Merci, Pascal, pour l'excellent travail.
À demain.
Salut, à demain.